Cube Radio. Yasmine Abdel-Fadel. Une animatrice hors norme, aussi percutante que l'actualité. Grande stratège, elle décortique les messages et analyse les non-dits. Méthodique, elle regarde chaque détail à la loupe.
Cube Radio, Cube Radio.
Surprenante, improbable, décapante. Elle ne laisse personne indifférent. Yasmine Abdel-Fadel.
Bonjour 8 août. Bienvenue à vous qui vous joignez à nous sur les ondes de Cube Radio. J'espère que vous avez passé une excellente fin de semaine. Il a fait beau, il a fait très très chaud. Et c'est pas mal différent de ce matin, hein? On n'a pas l'impression d'avoir vécu la dernière fin de semaine quand on s'est réveillé ce matin. Il fait gris, il fait froid, c'est la pluie qui nous attend pour la journée. Et normalement, hier, ça aurait dû être une journée de fête. Les astres étaient alignés, la chaleur était là, le beau temps était là. Et ça devait être la clôture de la semaine de la fierté à Montréal. On devait connaître au centre-ville de Montréal le défilé de la fierté, qui est rien de moins que le plus important événement de la fierté au pays. Il y avait beaucoup de politiciens qui étaient attendus, évidemment. Les Montréalais étaient présents, avaient hâte, d'autant plus que c'est le premier défilé après 2 ans de pandémie. Et non, on a appris hier, à la toute dernière minute, que c'était annulé. Et on disait au début que c'était pour des raisons de sécurité, que c'était pris d'un commun accord avec la police de Montréal, avec le SPVM. Et personnellement, je me suis demandé, est-ce qu'il y a eu une menace? Est-ce que ce sont les services policiers qui ont préféré annuler des rassemblements devant certains avertissements? Mais rien de tout ça, c'est l'organisation qui a tout simplement failli à sa tâche de prévoir assez de bénévoles ou de travailleurs pour assurer la sécurité du défilé. Ils s'en sont rendus compte hier matin. C'est assez chaotique, là. J'arrive pas à croire que le plus grand événement de la fierté du pays, on se rend compte le matin même qu'on n'a pas assez de travailleurs et de personnel. Et on comprend que ça a pu fâcher plusieurs participants. Et même la mairesse de Montréal hier, elle avait pas l'air d'être contente de savoir que ça a été annulé, alors que la ville n'a même pas été avertie, imaginez-vous, de la difficulté d'avoir des bénévoles ou des travailleurs. La mairesse, elle dit, ben si on le savait, on aurait clairement pu aider. C'est un événement qui est important dans l'agenda festivalier, disons ça comme ça, de la métropole. Et devant ce cafouillage et cette annulation, ben différentes marches et défilés spontanés ont pris d'assaut les rues du centre-ville de Montréal dans une atmosphère bon enfant. C'est sûr que la direction de Fierté Montréal prend un coup dur ce matin là sur sa crédibilité et on va se le dire là, le sérieux de la démarche est remis en question. Ils vont certainement avoir des réponses à apporter au courant des prochains jours, mais la mairesse a déjà dit dans un tweet qu'elle s'attend à un post-mortem, d'autant plus que la ville de Montréal contribue à la hauteur de 600 000 $ au défilé, savoir que finalement ça n'a pas lieu pour une question de logistique mal préparée, d'un cafouillage qui aurait pu être évité. Évidemment que c'est fâchant. Il y a également cette nouvelle hier de l'homme de 30 ans qui aurait perdu la vie à Montréal. On ne sait pas réellement ce qui s'est passé. Est-ce qu'il a été poussé en haut des escaliers? Mais on sait que c'est dans le cadre d'une chicane que la chute a été faite. Son décès a été malheureusement constaté sur place. Il va y avoir une enquête policière pour faire la lumière sur ce décès, sur ce tragique événement. Évidemment, 30 ans, c'est jeune pour mourir dans une chicane en haut d'un escalier, d'être tombé comme ça, c'est sûr que c'est tragique. Dans un autre ordre d'idée, il y a le Journal de Montréal ce matin qui nous apprend que la fameuse cimenterie McInnis, ça c'est le projet le plus polluant, me semble, en Amérique du Nord. Ben, la cimenterie McInnis fait des petites cachotteries, puis on est comme pas surpris. Elle aurait caché des informations au ministère de l'Environnement du Québec, notamment sur ses émissions de poussière collante en 2020. Elle disait avoir... Elle n'a pas constaté de poussière aux alentours de la cimenterie, mais tu sais, en même temps, elle procédait au lavage en douce là, des voitures puis des maisons aux alentours. Et là, on parle pas de la petite poussière que t'enlèves avec ton Swiffer chez vous le dimanche matin, là. On parle de poussière collante, là, difficile à enlever sur le mobilier de jardin, sur les fenêtres, sur les revêtements de maison. C'est des poussières qui ont même tué des poules puis ruiné des jardins. Là, c'est pas rien. Là, tu passes pas à côté puis dire « Finalement, j'en ai pas vu des poussières. » Si tu l'as lavé, c'est que tu sais qu'il y avait de la poussière. En termes de cachotterie et de manque de transparence, la fonderie Horn à Rouyn-Noranda ne fait pas mieux. On apprend ce matin dans la presse qu'elle tente d'empêcher la divulgation de documents inquiétants. Et inquiétants, on ne sait pas en fait s'ils sont inquiétants, mais on sait à tout le moins qu'ils indiquent la teneur en contaminant des matières qu'elle reçoit de ses fournisseurs. Et c'était des documents qui avaient déjà pourtant été rendus publics par le passé. Et c'est un citoyen qui se démène depuis 2 ans pour obtenir ces données. C'est demain qu'il va pouvoir auditionner devant la Commission d'accès à l'information du Québec pour pouvoir exiger la publication de ces données. Et finalement, ben c'est aujourd'hui que va débuter l'Omnium Banque nationale à Montréal et à Toronto. Cette année, c'est à Montréal qu'on reçoit les tennismen et à Toronto qu'on reçoit les tenniswomen. On va d'ailleurs pouvoir voir jouer Elix Auger-Aliassime qui se classe 9e rang mondial, là, c'est pas rien. Et malheureusement, ben on peut pas voir ni Rafael Nadal ni Novak Djokovic. Rafael Nadal, il s'est retiré du tournoi récemment à cause d'une blessure. Puis Novak Djokovic, ben coudon, on sait pas s'il est vacciné ou il est pas vacciné, il veut pas répondre à la question, fait qu'il participe pas. C'est nébuleux, mais ça lui appartient.
Vous écoutez Yasmine Abdel Fadel.
Cube Radio. Cube Radio.
Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre.
Nouvelle rencontre.
Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
Cube Radio. Une radio pas comme les autres.
David Santarossa, bonjour.
Bonjour Yasmine.
Alors, on a vu il y a 3 jours dans le journal Le Devoir un article qui parle d'Apple, la compagnie de technologie évidemment, qui essaie d'être plus présent dans les classes du Québec, notamment par l'embauche d'un lobbyiste pour faire pression sur le gouvernement du Québec. Toi, comme enseignant, comment tu vois ça?
Oui, juste avant d'en discuter, Yasmine, tu ne te doutes peut-être pas de ça, mais c'est le sujet le plus tabou de l'été. Hein, donc, toi puis moi, on a parlé de laïcité, on a parlé de langue, on a parlé de plein de sujets avec plein de débats. Mais à chaque fois que j'aborde ce sujet-là, c'est ça que je reçois vraiment beaucoup de commentaires. J'ai reçu plein de critiques parce que je suis assez critique, je te dirais, des technologies en classe. Je suis pas totalement en compte, mais je m'en fais critique. Et je sais pas qu'est-ce qu'il y a autour de cette question-là, mais c'est vraiment sensible, du moins dans les milieux universitaires et dans l'éducation.
On n'a pas le droit de critiquer
ça, c'est comme... Ben, dès qu'on dit que faut faire attention aux technologies, c'est pas nécessairement positif en classe, ça coûte très cher. Moi, j'avais déjà fait un texte qui expliquait tout simplement, c'est pas moi qui a expliqué pourquoi c'est pas bon la technologie, c'est ceux qui veulent plus de technologie qui ont besoin d'expliquer. C'est-à-dire qu'on a investi des milliards de dollars à chaque année. Peut-être pas à chaque année des milliards de dollars, mais en tout cas, il y a des plans quinquennaux de milliards de dollars. Donc, c'est à vous d'expliquer en quoi c'est un avantage. C'est pas à moi d'expliquer pourquoi il faudrait pas l'avoir. Et bien, juste ça, ça m'avait valu une
Mais c'est les parents qu'ils aiment pas ça ou est-ce que c'est ceux qui lobbient pour la technologie? Est-ce que c'est les gouvernements? Est-ce que c'est les chercheurs? Qui n'est pas d'accord avec ça?
Les lobbies et les chercheurs, je te dirais que les parents sont généralement d'accord avec moi. Hein. Les parents voient leur enfant scotché sur leur écran une bonne partie de la journée et s'en inquiètent, à raison, je pense. Il y a quand même beaucoup d'études qui montrent les effets délétères. Aussi, il y a certains, évidemment, comme je le dis, je nuance aussi, il y a certains effets positifs, mais les parents voient quand même les éléments négatif de la chose. Donc, ça, je pense que c'est important de le souligner. Et donc, oui, comme tu le dis, on a Apple qui fait un travail de lobby auprès du gouvernement. Et moi, il y a quelque chose qui m'inquiète parce que les professeurs de marketing ont vu que Apple, ce qu'ils veulent faire, c'est fidéliser les enfants. Hein? On le comprend. Eh bien, là, ce qu'on voit, c'est que la classe est maintenant un champ de bataille, marketing. On veut très rapidement que les enfants prennent certains plis. Et qu'ils soient habitués à certains produits, je trouve ça inquiétant.
C'est drôle parce qu'il y a quand même une loi au Canada qui interdit la publicité faite aux jeunes. Il me semble que c'est moins de 12 ans. Mais en même temps, on veut que les salles de classe deviennent un champ de bataille marketing pour les compagnies technologiques. Est-ce que c'est un choix qui doit revenir aux parents? Comment le gouvernement doit réagir à ça? Parce que aujourd'hui, c'est Apple, mais Apple, si on parle d'un champ de bataille, c'est pas contre le gouvernement, c'est contre des concurrents technologiques. Comment on gère ça?
Ouais, il y a comme une espèce de on fait face à un cul-de-sac, hein, parce que oui, évidemment, il y a le rôle, on pourrait dire, ben, ce serait le rôle des parents, ce serait pas au gouvernement, mais en même temps, pour être enseignant, puis les enseignants qui nous écoutent vont se reconnaître là-dedans, c'est intéressant quand dans une classe, tout le monde a le même modèle d'ordinateur ou de tablette parce que c'est beaucoup plus facile à gérer. On peut se l'imaginer, c'est le même principe dans une entreprise. Si tout le monde commence à avoir son ordinateur personnel différent, ben ça devient très, très complexe à gérer pour les personnes expertes en technologie. Moi, j'aurais tendance à dire que la solution, ça serait d'avoir moins d'ordinateurs. Je ne sais pas d'ordinateur, mais en ce moment, on parle d'un ordinateur par deux élèves. Puis ça, la tendance augmente à chaque année. Moi, je trouve que c'est inquiétant. Surtout, je le répète, là, les études montrent que l'effet est très, très, très marginal et probablement même négatif chez les enfants. C'est-à-dire que dans les tests internationaux, on n'observe pas de grands avantages à l'utilisation massive des technologies. Il y a plusieurs pays même qui ont rétro-pédalé, hein, qui ont réajusté le tir après avoir investi massivement en technologie, en éducation.
Ben, on est loin dans nos salles de classe aujourd'hui de la période où on avait un tableau noir avec de la craie poussiéreuse là, qui nous salit les mains puis les jeans. On est rendu avec des tableaux blancs interactifs. On est rendu avec des ordinateurs. Puis là, tu le disais bien, un ordinateur par deux élèves. Mais peut-on vraiment reculer là-dessus quand aujourd'hui les technologies de l'information sont omniprésentes dans nos vies? Les enfants ne doivent-ils pas être prêts également au cycle supérieur, puis là, je parle même du secondaire, du cégep, de l'université, où l'utilisation d'un ordinateur, là, c'est pas optionnel, là.
Je suis d'accord avec toi. Moi, ce que j'ai tendance à proposer, c'est un cours d'informatique à proprement parler, de quelques heures par semaine, où là, vraiment, on apprendrait à travailler efficacement avec ces outils-là, parce que souvent, dans beaucoup d'écoles, pas dans toutes, mais dans beaucoup d'écoles, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on garoche un peu l'outil technologique dans les mains de l'enfant. On fait plus ou moins de suivi. Puis on se rend compte que oui, nos enfants sont très bons avec Facebook, TikTok, Instagram, mais avec la suite Office, par exemple, hein, que tout le monde connaît, Word, Excel, PowerPoint, ben ils sont loin d'être des experts, là.
Ça revient pas aux enseignants dans les salles de classe de les préparer à utiliser la suite Office, par exemple?
Tout à fait, mais ça prend, puis je pense pas que c'est impossible, là, mais moi, j'ai fait plusieurs écoles et c'est ça que je remarque. Étant donné que c'est rare que toute une, comment dire, une c'est-à-dire qu'il faut dire, OK, toi, tel enseignant, tu dois t'occuper de tel sujet dans la suite Office, mais quand c'est à tout le monde, c'est à personne, hein. Quand ouais. Tout le monde doit s'en occuper, c'est à personne, donc ça prend vraiment des leaders dans une école qui va vraiment s'occuper de ça. Comme je le dis, c'est pas impossible, mais il faut que ça se fasse.
Tu te rappelles, David, la période où on voyait l'enseignant pousser le chariot avec une télévision qui fait genre 2 mètres de large les vendredis après-midi, puis ça sonnait la période à laquelle on va regarder un film plutôt que faire un cours. J'ai l'impression que cette période est aussi révolue, puis c'est pas une mauvaise chose que ça soit révolu cette période-là pour nos jeunes, là. T'sais, il y a comme un juste milieu à trouver.
Oui, tout à fait. Mais ça, c'est mon j'ai un petit côté dinosaure, Yasmine, qu'il faut que j'accepte, il faut tolérer, hein. Donc, trop de changements en même temps, ça me chamboule trop. Donc, une chose à la fois. Et voici ça, j'ai l'impression que le changement de la technologie dans les écoles, ça s'est fait très, très rapidement. Puis pas toujours de manière réfléchie, j'ai l'impression. Ordonnée, exactement.
Et que penses-tu de la natation, elle? Là, on parle des technologies, mais il y a aussi le débat sur la natation à l'école. De plus en plus de parents réclament à ce que des cours de natation soient obligatoires dans le cadre du cursus scolaire, notamment pour éviter les différentes noyades que l'on voit malheureusement à chaque été.
Ben oui, j'ai vu ça, 90% de la population disent que oui, les cours de natation seraient obligatoires. Et évidemment, on peut pas être contre la vertu. En effet, ça serait une bonne chose. Il semblerait que ça puisse sauver des vies, donc pourquoi pas. Et ça pourrait très bien s'intégrer dans un cours d'éducation physique, ça c'est certain. D'un autre côté, je me demande, Yasmine, à partir de quel moment ce n'est plus la responsabilité du gouvernement? J'ai l'impression que dès qu'il y a une problématique sociale, on se dit, ben, on se tourne vers le gouvernement, on rentre ça dans les écoles. Hein? L'école est rendue, on parlait de l'école d'hier versus l'école d'aujourd'hui. J'ai l'impression que l'école aujourd'hui a tellement de responsabilités. À chaque année, on ajoute des choses. Hein? Récemment, on a ajouté l'éducation à la sexualité. Là, on parle d'ajouter la nage. C'est tous des sujets importants, mais en même temps, est-ce qu'il y a un moment où est-ce qu'on va tracer la ligne en disant, ben, savez-vous, là, c'est plus la responsabilité de l'école, c'est les parents, c'est la famille, c'est les amis, mais ce n'est plus le gouvernement.
Et on peut faire d'une pierre deux coups quand même, parce que on offre quand même des cours d'éducation physique, tu sais, puis plutôt que de faire, il y a personne qui a été sauvé d'une noyade parce qu'il a été le champion de ballon chasseur, là, on peut tous le dire. Il y a d'autres qui peuvent sauver leur vie en apprenant à nager dans le cours d'éducation physique.
Ouais, ça c'est certain, je suis d'accord avec toi, le concours de ballon chasseur, bien que bien amusant, ne sauve pas de vie. En même temps, peut-être je me trompe, envoyez-moi un message si jamais il y a quelqu'un qui a été sauvé grâce à une joute de ballon chasseur.
En fait, la personne qui a été sauvée, c'est qu'elle a décidé d'aller jouer au ballon chasseur plutôt que d'aller nager.
Exactement. Ouais, tout à fait. Mais donc, ben il y a quand même cette idée-là. J'ai l'impression, Yasmine, que il faut aussi responsabiliser les individus. Je trouve dans nos sociétés, je sais pas ce que t'en penses. Est-ce que tu trouves qu'on a tendance à tout le temps se tourner vers le gouvernement pour la moindre petite chose? Et j'ai l'impression, c'est ça, que la famille, les parents. Je dis pas que c'est bien des responsables, mais il faut aussi valoriser cette responsabilisation-là et le dire.
Mais je suis d'accord avec toi jusqu'au point où il y a des fléaux qui deviennent systémiques. Un peu comme la noyade où à chaque été, on commence à s'attendre à ce que des jeunes perdent la vie dans les piscines privées, dans les piscines publiques, dans les lacs. Et toutes les noyades sont pas causées par un manque de compétences en nage, par exemple. Mais c'est sûr que ça aide quand t'apprends à nager. Là, on peut pas rejeter ça du revers de la main. Puis on se dit, ben, est-ce que le gouvernement, il a des installations? Tout le monde n'a pas accès à une piscine. Tous les parents ne savent pas eux-mêmes nager pour apprendre à leurs enfants à nager et n'ont pas les moyens de les envoyer dans des cours privés de natation. Est-ce qu'il y a un moyen de faire d'une pierre deux coups, de faire des cours d'éducation physique qui puissent former et éviter certains drames? Je ne mets pas ça comme une responsabilité du gouvernement, mais je me dis, il y a quelque chose à faire, quelque chose à creuser là-dedans.
Oui, probablement. C'est certain que sur cette question-là, ça s'intègre probablement dans le programme de formation de l'École québécoise, ce qu'on appelle le PFEQ. Donc oui, pour ce, je pense que ça serait une bonne idée, très certainement. J'avais un ami qui me disait qu'il y avait des sports qui étaient utiles, hein, c'est ça, des sports utiles comme la natation. Il me parlait aussi des cours d'autodéfense, par exemple. Donc, c'est ça, ça
mais
revient un
David,
peu la question du ballon chasseur.
Juste pour te dire, t'as beau débattre avec moi, mais tu dois quand même reconnaître que je t'aide parce qu'aujourd'hui, tu vas pas recevoir des messages sur l'utilisation des technologies, mais tous les amoureux de ballon chasseur vont pouvoir t'écrire pour dénoncer ton mépris pour le ballon chasseur et le mien également.
Je t'en serai éternellement reconnaissant.
Je fais ça à chaque matin. On se reparle demain pour un autre conseil du jour.
Ex-conseillère politique, et ça fait bien notre affaire. Yasmine Abdel-Fadel. La chronique Argent.
Une vision des finances pas comme les autres.
Olivier Bourque, bonjour.
Bonjour Yasmine.
Écoute, le premier sujet m'intéresse vraiment, vraiment beaucoup. Ça fait longtemps que j'en parle autour de moi. Moi, ils sont tannés de m'en entendre parler, mes amis, mon mari. Mais maintenant, je vais pouvoir en parler à la radio. La gestion des pourboires qui revient dans l'actualité, avec la pénurie de main-d'œuvre, tout un débat là-dessus. Qu'est-ce qui se passe avec la gestion des pourboires? Parce qu'on dirait que ça a changé depuis 6 mois, comment donner un pourboire au Québec.
Oui, effectivement, tu as tout à fait raison. Alors, on a quelques textes, notamment un texte de ma collègue Hélène Schaff ce matin dans le journal. On parle beaucoup des pourboires et peut-être l'as-tu remarqué sur les terminaux
Oui.
après ton repas. Oui, alors maintenant, parce qu'avant ça, c'était assez simple, c'est un pourcentage. On le sait tous, Yasmine, c'est quoi? C'est 15 %.
Normalement,
Alors,
mais là, t'es
c'est comme
cheap si tu donnes 15.
Ah ben là, maintenant, là, faut pas que ça monte trop haut. Moi, je m'excuse, il y a quelque chose également. En Europe, le prix qui est affiché, c'est le prix que tu vas payer. Là, ici, au Québec, tu regardes le prix, tu dis, OK, là, je vais sortir ma calculatrice. Bon, c'est 15 $. Ben oui, c'est 15 $. Mais là, il y a le pourboire là-dessus, puis il y a les taxes également. Alors, normalement, c'est quoi? 15 %? Mais là, sur les terminaux, de plus en plus, on offre quoi? On offre du 18 %, du
Du 20 et du
20 %
25.
et du 25 %. Alors, c'est une facture de 100 $, 25, 125 $. Ça commence à faire cher l'assiette. Surtout, on le sait, il y a de l'inflation aussi dans l'assiette. Alors, il y en a plusieurs personnes qui pensent que certains restaurateurs exagèrent. Évidemment, Yasmine, le client peut donner ce qu'il veut, là. Il n'y a pas d'obligation de donner du 25 %. Mais des fois, le doigt peut te fourcher, puis tu peux aller appuyer sur le 25 %. Donc, il y a plusieurs personnes qui aimeraient que ce soit davantage uniformisé. Du 15 %, 18 jusqu'à 20 %, c'était très, très content. Alors, ça, c'est une question. Alors, il y a un texte là-dessus dans le journal. Mais aussi une autre grosse question, Yasmine, sur la question des pourboires, c'est que, en contexte de pénurie de main-d'œuvre, il y en a plusieurs qui aimeraient qu'on partage les pourboires. Parce que la loi sur les normes du travail, ça dit que le pourboire est obtenu par la personne qui le reçoit dans la salle, évidemment. Le serveur. Alors, c'est ce que dit la loi actuellement.
Mais c'est pour
Mais là,
ça aussi que
imagine-toi quand...
son salaire, le salaire minimum, quand on est dans des emplois à pourboire, est moindre que le salaire minimum habituel.
Oui, exactement. C'est parce qu'on considère que le serveur va obtenir une majoration avec le pourboire. Mais là, regarde bien aussi, ça amène une disparité énorme entre les cuisiniers, par exemple, et les serveurs. Alors, selon l'Association de la restauration Québec, l'an passé, le salaire horaire des gens qui sont en cuisine était de 19 $ de l'heure. Et écoute bien ça, Yasmine, pour les serveurs, 31 $ de l'heure. On est loin du salaire minimum, là. Il y a 11 $ entre les deux.
Ben oui,
Alors,
mais dans ma, tu sais, c'est deux corps d'emploi différents, c'est deux corps de métiers différents. J'aurais le goût de dire, lâche la cuisine, va servir, tu sais, comme.
ben, ça prend des cuisiniers, par exemple. Et puis, en contexte de pénurie de main-d'œuvre, qu'est-ce qui se passe, Yasmine, tu penses, c'est que c'est assez plus facile, on pourra dire, de trouver des serveurs, mais beaucoup plus difficile actuellement de trouver des cuisiniers. S'il y a juste des serveurs dans ton restaurant, tu vas avoir un problème. Ça prend également des
Pas grand
cuisiniers.
monde à servir,
Ah.
pas grand-chose à servir.
Il n'y aura pas grand-chose à servir. Alors, c'est pour ça que de plus en plus, les restaurateurs se disent, bon, ben, on devrait changer la loi et faire en sorte qu'il y ait un partage des pourboires. Alors là, on n'a pas encore donc le pourcentage qui serait proposé, mais c'est sur le bureau du ministre du Travail, M. Boulay, qui a créé un comité. Et je vais t'avouer, je suis assez d'accord avec ça, parce que ton expérience client, à la fin, là, évidemment, tu es très content, tu as pris ta coupe de vin, ton repas était très bon. Qu'est-ce que tu vas juger, Yasmine? Tu vas juger évidemment donc la rapidité du service, tu vas juger le travail du serveur, mais tu vas aussi juger le travail des cuisiniers. Es-tu
Oui.
satisfait de l'assiette que tu as eue? Alors, grosso modo, à la fin, ce que tu vas payer comme pourboire, ben, c'est une appréciation générale de ton expérience que tu as eue au restaurant. Alors, de plus en plus de gens pensent qu'on devrait avoir un partage des pourboires et que ça profite non seulement au serveur, mais également aux cuisiniers et ça permettrait au restaurant de pouvoir aller chercher du personnel en cuisine, qui, on le répète, c'est quand même essentiel dans un restaurant d'avoir des cuisiniers.
Bien, évidemment, les cuisiniers sont importants dans un restaurant, mais il y a aussi les plongeurs qui lavent la vaisselle, il y a les boss boys qui font l'aller-retour et tout ce monde-là ne touche pas nécessairement des pourboires. Donc, est-ce que le partage doit inclure tout ce personnel-là ou est-ce que c'est juste les cuisiniers?
Oui, lorsqu'on parle du partage des pourboires, c'est que ça concerne tous les gens qui travaillent, la personne qui t'accueille, donc l'hôte ou l'hôtesse à l'entrée, les pourboires, évidemment, donc les gens qui font la plonge, les cuisiniers, les serveurs. Alors, tout le monde, évidemment, aurait sa part du gâteau. Actuellement, il y a des restaurants qui proposent le partage des pourboires, mais tu comprends le problème, c'est que là, les serveurs gagnent moins.
Ça les intéresse.
Ils veulent aller dans un autre département. C'est pour ça. Alors, c'est pour ça qu'on dit on devrait changer la loi, tout le monde égaux.
Très intéressante proposition. On va voir qu'est-ce que le ministre Boulay va faire dans ce dossier-là. Probablement qu'il ne va s'intéresser à ce sujet qu'après la campagne électorale qui va finir le 3 octobre prochain. C'est ça. Sinon, sur un autre dossier, le marché immobilier, on dit qu'il se calme un petit peu. Il y a moins d'engouement, notamment pour les chalets.
Oui, parce que tu sais ce qu'on avait vu durant la pandémie, Yasmine, il y a eu un retour à la nature. Hein, qui était
on
soudain.
A tout découvert les routes du Québec.
C'est ça. Puis les vacances également. On sait qu'il y a des régions qui ont été très populaires, la Gaspésie puis la Côte-Nord notamment. Mais c'est quelque chose qu'on avait vu. Alors, les gens vendaient leur maison. Il y a eu, on sait, donc une fièvre immobilière, il y a eu de la surenchère, des files d'attente, puis on sait que des fois, il y avait du 30, 40, 50 personnes pour la même maison. Et là, je parle des maisons, mais aussi donc des résidences secondaires, des chalets. Et aussi, le phénomène qu'on avait vu, c'est que les gens voulaient quitter la ville, voulaient quitter le virus, mais aussi de travailler à distance dans un endroit qui était calme. Alors, il y a eu une espèce d'engouement pour les chalets, mais là, c'est terminé, semble-t-il. Donc, les prix... tranquillement pas vite, sont en train de redescendre. Selon certaines personnes, durant la pandémie, il y a eu une espèce de bulle immobilière, les prix qui ont été fortement majorés. Et ce qu'on remarque également dans les endroits de villégiature, que ce soit par exemple les Laurentides, que ce soit l'Estrie, Yasmine, il y a une baisse des ventes. Alors, notamment à Saint-Sauveur, il y a eu une baisse de 31% des ventes.
C'est quand
en
même
juin
beaucoup.
Dernier, C'est beaucoup. Et ce qu'on remarque de plus en plus, il y avait surenchère il y a quelques mois, donc en 2020, en 2021, mais là, on est loin de la surenchère. Les gens, maintenant, veulent négocier lorsqu'ils achètent. Et parfois, on offre moins que le prix affiché.
Ça fait
5
quelques...
à 10%.
Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça.
Oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Alors, je te dirais qu'on est en train de revenir à la réalité après la folie qu'on a vécue lors des derniers mois. Alors, petit conseil, si vous vendez, si vous achetez, prenez ça en considération. Les vendeurs, l'an passé, s'attendaient toujours à avoir des fois du 30, des fois même du 40 offres et vendre leur propriété en 2-3 jours. On ne voit plus ça, que ce soit pour la résidence principale ou la résidence secondaire. Et évidemment, donc, ça touche les chalets.
Intéressant de voir si cette stabilisation du marché va toucher le milieu résidentiel un peu plus urbain, moins dans les régions. C'est à voir avec la hausse des taux d'intérêt, notamment.
Absolument. Et ça, c'est déjà, on l'observe déjà. Il y a des jardins, par exemple, qui pensent qu'on va aller vers une correction du marché immobilier. Yasmine, alors une correction, c'est pas une grosse baisse là, du prix, là, mais c'est quand même une recul de 10 %. Tu l'as dit, avec la hausse des taux d'intérêt, évidemment, donc ça touche ce secteur-là. On voulait calmer le secteur et c'est ce qui est en train de se passer.
C'est des bonnes nouvelles pour les acheteurs, pas nécessairement pour les vendeurs, mais ça, c'est une autre question.
Ça.
Il y a le sirop d'érable qui n'est pas assez alléchant pour Félix Auger Aliassime mais Leila Fernandez...
Oui, je te parle de ça brièvement. C'était ma nouvelle de la fin de semaine. J'ai travaillé là-dessus vendredi. Peut-être vas-tu t'en souvenir, Yasmine, il y a quelques années, le joueur Vasek Pospisil, c'est un joueur canadien, qui sera à l'Omnium Banque Nationale à partir de cette semaine. Lui, ce qu'il faisait entre les points, imagine-toi, il prenait son petit flacon de sirop d'érable, puis il en prenait une petite lampée pour se donner de l'énergie. Ah, alors il prenait pas du Gatorade, lui, il prenait donc une petite shot de sirop d'érable et semble-t-il que ça améliorait ses performances et d'autant plus que c'est arrivé à un moment où il était en état de grâce. Je pense que c'était en 2020, là, il gagnait plusieurs matchs, il avait fait des finales. Alors évidemment, tout le monde avait regardé le Vasek Pospisil, il avait dit « Mon Dieu, est-ce qu'il faudra boire du sirop d'érable? »
Un petit shooter de sirop d'érable.
Shooter de sirop d'érable. Et aussi, en 2021, Leila Fernandez, tu sais qu'on la connaissait pas avant les états nationaux de tennis des États-Unis. Et là, je pense qu'elle allait en demi-finale, puis on lui avait posé la question, qu'est-ce qui explique les succès des Canadiens et des Québécois? Parce qu'il y a Félix également qui était en demi-finale à cette époque-là. Ben, elle avait dit, je crois que c'est le sirop d'érable. Ça avait fait rire tout le monde. Mais du côté des producteurs de sirop d'érable, imagine-toi qu'on avait écouté ça, ben, on avait dit, oh, intéressant, je pense qu'on va essayer de commanditer Félix et Leila. D'autant plus que 76% du sirop d'érable est exporté aux États-Unis. Leur principal marché d'exportation, ce sont les États-Unis. Alors, ils ont essayé, ils ont appelé l'agent, ils leur ont envoyé, imagine-toi, des cadeaux de l'érable, puis bon, ils ont essayé de faire des contacts. Et finalement, ça ne s'est pas concrétisé. Les producteurs sont repartis gros gens comme devant et ils n'ont pas obtenu la commandite. Parce que pour eux, tu comprends bien que si Leïla ou Félix boit sa petite shot de sirop d'érable ou font des médias sociaux avec ça, ça aurait été très, très intéressant en termes de visibilité. Alors, ça ne s'est pas produit. Moi, j'ai parlé notamment durant le week-end avec l'agent de Félix, qui représentait Leïla à l'époque, puis il a dit, écoutez, il dit, je dis non à 90% des offres que je reçois. Ils sont très, très populaires, les deux. Félix, notamment, tu sais, qui est 9e mondial.
Alors, 9e raquette mondiale, là, c'est important. Là, on... c'est pas... Il doit recevoir des offres comme pas possible. Mais c'est sûr que nous, on a un petit faible pour notre sirop d'érable.
Oui, effectivement. Mais c'est qu'après ça, moi, ce que je trouve un peu pas déplorable, évidemment, c'est leur choix. C'est le choix de l'agent, c'est le choix des joueurs. Mais lorsque tu regardes Leïla, elle représente qui? Elle représente Subway. D'ailleurs, on voit beaucoup de publicité avec Subway. Elle représente Google également et Lululemon. Alors, elle représente des gros joueurs, des gros commanditaires avec des poches bien profondes. Félix, lui, notamment, il y a Adidas. Il y a Maxi. Je sais pas si tu as vu encore dans tes publicités Maxi. Donc, tu sais, bon, l'agent, il dit, on fait des choix, puis bon, c'est pas seulement les montants qu'on nous offre, qu'on évalue, mais c'est sûr qu'il y a des commandites, je trouve, qui sont plus significatives que les autres. Le sirop d'érable, c'en serait une. Alors, l'agent, d'ailleurs, a dit que la porte était toujours ouverte pour une négociation avec les producteurs de sirop d'érable. Alors, je pense que du côté des producteurs, on aimerait bien avoir Félix avec un petit logo, peut-être, ou... une consommation de sirop d'érable sur le terrain, à voir si la position de l'agent des deux joueurs va changer.
Et s'ils nous écoutent aujourd'hui, les producteurs, ne perdez pas espoir, continuez, ne prenez pas non comme une réponse de ces deux joueurs. Il y a personne qui peut vraiment résister devant un petit shooter de sirop d'érable, disons-le franchement.
Personne. Puis d'autant plus que le sirop d'érable, Yasmine, sont en train de se repositionner pour la performance sportive. Parce que tu sais, le sirop d'érable, c'est quoi pour nous? C'est la crêpe le samedi matin, c'est une nourriture qui est réconfortante. Mais de plus en plus, ce qu'on dit, c'est que les sportifs, lorsqu'ils utilisent un sucre naturel, puis semble-t-il, ils sont bardés de nutritionnistes du côté des producteurs. Alors, on a vraiment ciblé les sportifs et ils ont aussi une collaboration, te dire, en terminant, avec Hugo Hull.
Ah!
Le seul et l'unique.
Ça pourrait être plus intéressant, tu sais, surtout qu'aujourd'hui, il est bien populaire. Olivier Bourque, reviens-nous avec des nouvelles de sirop d'érable. On aime ça, puis nous, c'est pas pour le sport, c'est vraiment pour le crêpe le dimanche matin.
T'as tellement raison, en plus.
À demain.
Ex-conseillère politique, et ça fait bien notre affaire. Yasmine Abdel-Fadel.
Au printemps dernier, Brian Scullion a appris que son jardin faisait partie des 150 plus beaux du monde, imaginez. Et ça, c'est selon les éditeurs du prestigieux guide de voyage Ulysse là, que l'on connaît. Et on a la chance d'avoir M. Scullion avec nous, qui est directeur général du jardin Scullion. Bonjour, M. Scullion.
Bonjour, comment ça va ce matin?
Ça va très bien, ça nous donne le goût d'aller faire un tour dans vos jardins.
Oui, puis il fait beau au lac Saint-Jean. En plus, une très belle journée qui s'annonce.
On devrait prendre la route parce qu'à Montréal, il pleut, il fait gris, il fait froid. C'est pas agréable. Mais dites-moi donc, combien de visiteurs vous avez reçus cette année?
Je dirais peut-être aux alentours de 3 ou 4 000. C'est une très bonne année. C'est sûr que c'est pas comparable à l'an passé avec le fameux COVID où les gens avaient besoin d'air. Mais c'est quand même une très, très bonne année. Puis le jardin est magnifique. On a eu beaucoup de pluie aussi cette année. C'est votre tour aujourd'hui, mais on a eu notre part aussi dans le printemps. Donc, le jardin est très humide. Puis c'est un jardin de vivaces, de conifères. Donc, les plantes sont très heureuses.
Et ce jardin, ça fait combien de temps que vous le chouchoutez, que vous le mettez en place, que vous travaillez dessus?
Moi, j'ai acheté. Il faut dire que c'est une terre abandonnée que j'ai acheté ici en 1985. Donc, ça fait 37 ans. Il n'y avait pas d'arbre ici. C'était vraiment abandonné. Moi, c'est un rêve d'enfance de vivre à la campagne. Et j'ai planté 10 000 arbres dans les 3 premières années. Donc, ça s'est vraiment créé progressivement sur les années. Et moi, je suis un petit peu égoïste. Je faisais ça pour moi au début. Puis, c'est rendu un site qui est très populaire. On a des milliers de visiteurs, 15 employés. Le jardin Scullion, c'est quand même 50% de la superficie du jardin botanique de Montréal actuellement. Les gens sont surpris d'arriver en campagne, dans un village, à l'Ascension de Notre-Seigneur. Et de voir un jardin aussi magnifique, là. C'est toujours au-delà de l'espérance des visiteurs, ça c'est très positif.
Et est-ce qu'il y a des activités qu'on peut faire? J'imagine qu'il y a des familles qui peuvent non seulement découvrir le jardin en soi puis de marcher, mais est-ce qu'il y a autre chose qu'ils peuvent faire, des activités familiales notamment?
Oui, c'est très familial. Il y a le mini-ferme, des jeux d'enfants, il y a des chutes, des cascades, des bassins. C'est un très grand territoire, donc il y a des sentiers pédestres de 3 km, il y a une tourbière, des milieux naturels, il y a même des plantes carnivores que les gens peuvent observer, qui sont naturelles dans la tourbière ici. On a un magnifique pont de pierre de 500 tonnes inspiré des jardins d'Angleterre. Et ce qui est particulier chez nous, je dirais, on fait des locations de voiturettes électriques. Donc, personnes âgées, personnes qui ont des difficultés à marcher, il y a un beau 4 km de sentier à sens unique qui donne accès au jardin d'ombre, au jardin de sous-bois, au camp forestier. Et on a un magnifique jardin de conifères aussi qui est unique en Amérique du Nord avec 350 variétés. Il s'étire sur 1 km, que des conifères. Donc ça, c'est une de nos particularités, de nos forces ici, les conifères. C'est vraiment exceptionnel d'avoir autant de plantes diversifiées dans, en région nordique comme au lac Saint-Jean, par exemple.
C'est vraiment impressionnant. Comment ça s'est fait, cette nomination-là, dans les 150 plus beaux jardins avec le prestigieux guide Ulysse? Est-ce qu'ils sont venus vous voir? Ça fait combien de temps qu'ils sont venus vous voir?
Je pense qu'ils envoient des espions. Probablement que ça se passe comme ça. J'ai jamais vérifié réellement, mais moi, ils m'ont approché l'automne passé. Vous savez, depuis 33 ans, 35 ans, on a beaucoup de demandes ici, soit des journalistes, des entrevues, des émissions de télévision. Donc, on est quand même habitué d'avoir des appels dans ce sens-là. Moi, ils m'ont dit que j'avais été choisi parmi les 27 plus beaux jardins d'Amérique et qu'ils produisaient un volume sur les 150 plus beaux jardins du monde. Ils m'ont demandé si j'étais intéressé. J'ai dit oui, absolument, ça m'intéresse. J'ai eu la surprise ce printemps d'avoir arrivé le volume chez nous avec effectivement des belles photos du jardin, puis on était vraiment bien positionnés dans le guide là, sur les 150 plus beaux jardins du monde. Ça nous a fait un petit velours.
Est-ce qu'il y en a d'autres au Québec qui figurent dans ce palmarès?
Oui, vous avez le Jardin botanique de Montréal et le Jardin de Métis. Ben, donc, c'est des jardins qui sont très connus aussi.
Ben, c'est ça.
Et vous avez aussi le Butcher Gardens sur l'île de Victoria, qui a 1 million de visiteurs par année, qui est centenaire d'ailleurs aussi. Donc, c'est des jardins qui sont quand même très prestigieux, là.
C'est très prestigieux, le Jardin de la Métis, c'est le Jardin de botanique de Montréal. On entend parler très souvent, mais le vôtre, c'est là où on le découvre. Est-ce que vous avez senti un engouement depuis cette nouvelle est sortie?
Oui, absolument. Les gens en parlent beaucoup. Mais hier, c'était à Radio-Canada aussi, aux nouvelles ici en région. Et on a beaucoup de félicitations. C'est curieux. Moi, j'ai une équipe d'entretien d'aménagement paysager. Hier, ils étaient sur des contrats. Puis les gens les félicitaient. Ils se demandaient pourquoi. Ils ont dit, on parle de vous à la radio. Vous êtes parmi les 150 plus beaux jardins du monde. Donc, il y a des retombées, évidemment, qui s'en viennent dans les prochains jours, prochaines semaines. Les prochaines années, souvent, c'est du long terme.
Bien, Monsieur Scolienne, on a hâte d'aller découvrir votre jardin. Ça a l'air magnifique. Et honnêtement, prochain passage dans votre région, c'est sûr que je vais arrêter là personnellement. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Ça donne le goût d'aller vous visiter. Monsieur Scolienne est directeur général des Jardins Scolienne. Bonne journée.
Yasmine Abdel-Fadel. Des opinions tranchées. Des propos divergents. Pour s'informer tout en divertissement. Savoir et comprendre, Yasmine Abdel-Fadel.
Culture et société.
On est plusieurs à s'être dandinés dans nos salons lorsqu'on était jeunes au son des Backstreet Boys. Et aujourd'hui, Marika Simard nous propose de revenir sur les Backstreet Boys en disant bonjour, Marika. Je pense qu'on a un petit problème de son qui devrait se régler sous peu, mais on s'en rappelle, les Backstreet Boys, les Spice Girls, ensuite il y avait le NSYNC et c'était la folie, là, tu sais, on les connaissait, on connaît toutes leurs chansons, puis aujourd'hui, il y a d'ailleurs cette vidéo sur TikTok qui fait jaser. C'est quand on entend une chanson des Backstreet Boys, on trouve tout ça un peu quétaine, mais au fond de nous, on est tous en train de marmonner les phrases puis ces chansons-là parce que elles nous ont marquées, elles ont marqué notre temps. Puis on se rappelle la folie quand ils sont arrivés à Musique Plus au Québec. Il y a bien du monde qui ont raté des cours puis qui ont fait l'école buissonnière pour venir les apercevoir de loin sur Sainte-Catherine. Les Backstreet Boys, qui je pense qu'ils sont de retour à Montréal pour cet automne pour une série de spectacles. Et je suis sûre que ce sont des nostalgiques qui se sont procurés ces billets-là, qui vont être au Centre Bell, pour pouvoir aller assister et revenir 20 ans en arrière. Et je pense que la ligne est maintenant rétablie avec Marika Simard. Bonjour, Marika.
Yasmine, bonjour.
Alors, je parlais des Backstreet Boys qui nous ont... dont on est nostalgique de cette période de notre vie où on rêvait, on se réveillait puis on se couchait le soir en écoutant du Backstreet Boys.
Ouais, je pense qu'ils ont bercé l'enfance, l'adolescence de plusieurs d'entre nous, dépendant de l'âge que vous avez. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que le 12 août prochain, ils vont souligner le 25e anniversaire de l'album Backstreet Back, un album qui a vraiment marqué notre imaginaire. Alors, j'ai eu envie aujourd'hui, comme à chaque semaine, de revisiter l'univers des Backstreet Boys en du temps. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que les Backstreet Boys vont se réunir pour la toute première fois en 1993. Ça fait un bail. Alors, il y a Nick, Ovi, Eddie, Kevin, et Brian également, qui vont se réunir donc en 1993 à Orlando, en Floride, pour former officiellement ce qu'ils vont appeler les Backstreet Boys. Ils vont rapidement, Yasmine, connaître un succès très, très rapide. Ils vont exploser au Canada, en Europe. Mais malgré un succès qui est international, les Backstreet Boys vont pas nécessairement tout de suite réussir à charmer les Américains, à faire leur place aux États-Unis. Ils vont malgré tout faire paraître un premier opus éponyme en 1996, soit 3 ans après leur formation. Et parmi les chansons porteuses, celles qui vont tourner dans toutes les radios, qu'on va entendre maintes et maintes fois, sur cet album, on va retrouver « I Will Never Break Your Heart ».
Oh, c'est tellement bon! Et ça faisait de la bonne musique dans le temps, hein?
Ah oui, et je pense que ça en fait encore. Et donc, portés par le succès de leur premier album, ils vont décider de lancer un deuxième effort musical, le fameux album Backstreet Back, qui est né, comme je le disais, le 12 août 1997. Ça nous rajeunit pas. Il en faut pas plus, évidemment, pour qu'ils conquèrent les États-Unis. Je vous disais un peu plus tôt que ça a pris un peu plus de temps avant qu'ils conquèrent le cœur des États-Unis. Mais là, c'est fait avec cet album-là. L'album va s'écouler à plusieurs millions d'exemplaires, notamment grâce aux pièces Everybody et As Long As You Love Me. I don't care who you are.
C'est tellement bon, là. Honnêtement, j'ai goût d'aller au karaoké.
C'est vrai que ce sont des belles chansons de karaoké. Millennium, c'est le titre du troisième album et c'est, à mon sens, l'un des plus grands succès des Backstreet Boys. Le groupe va faire paraître cet album-là en 1999 et cette année-là, l'album va devenir l'un des plus vendus au monde. Il va dépasser l'album de Britney Spears, le fameux album Baby One More Time. Et la chanson qui va marquer l'imaginaire sur cet album est I Want It That Way.
Juste, Marika, 7h51, tu me fais danser dans un aquarium qui me sert de studio. Et t'es pas là pour m'accompagner, j'ai l'air d'une folle. Heureusement qu'on est à la radio puis pas à la télé.
Écoute, moi, je suis à la maison, mais malgré tout, je chante les paroles au même moment que la musique joue. J'ai adoré préparer cette chronique pour vous ce matin. J'espère que ça paraît.
C'est vraiment le fun. Ça
nous amène en 1999 et entre 1999 et 2001. J'ai envie de dire que ce sont les années folles des Backstreet Boys. Ils vont faire paraître un autre album. Ils vont partir en tournée. Ce sont des années où les gars vont vivre un rythme effréné et on le comprend. Avec toutes ces années de tournée, ils vont finalement décider de s'offrir une petite pause musicale, une pause qui va donc s'étendre jusqu'en 2005. Pendant ce temps-là, il y a le beau Nick Carter qui va décider également de se lancer en carrière solo. Mais là, c'est d'ailleurs cette année-là, en 2005, qu'heureusement, les Backstreet Boys vont se retrouver à nouveau, les cinq gars ensemble. Ils vont faire paraître l'album Never Gone l'année suivante, soit en 2006. Mais malgré un engouement certain, l'album va connaître un succès un peu moins important, un peu moins impressionnant que les albums qu'ils nous ont présentés. Mais quand même, vous allez reconnaître la chanson Incomplete. Je pense à ma sœur avec qui je chantais ces chansons à tue-tête dans la voiture de mes parents, puis pauvres mes parents, je les salue. Cette chanson Incomplete, je pense qu'elle est à propos parce que après l'apparition de cet album-là, Yasmine, il y a un des membres du groupe, je ne sais pas si tu te rappelles, qui va décider de quitter la formation. Les raisons de son départ sont assez nébuleuses, obscures. On sait qu'il va devenir papa l'année suivante. Mais quand même, les Backstreet Boys vont décider d'enregistrer un autre album, Unbreakable, en 2016. Kevin, donc c'est le premier album qu'ils vont faire paraître en tant que quatuor. En 2008, les Backstreet Boys vont débarquer au Centre Bell de Montréal et là, ils vont profiter de leur passage à Montréal pour remercier les fans du Québec parce que selon eux, c'est eux qui les ont conduits vers le succès. Ils vont notamment parler du concert historique qui avait eu lieu au Festival de Montgolfière sur Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est un événement qui avait rassemblé 85 000 personnes et qui, à leur avis, leur avait permis de se faire connaître ailleurs dans le monde et surtout en Amérique du Nord. Donc, c'est vraiment c'est un moment marquant dans cette histoire des Backstreet Boys. Mais quand même, malgré l'absence de Kevin, ils vont reculer devant rien. Ils vont faire paraître un septième album intitulé « This Is Us ». Ce n'est, Yasmine, qu'en 2012, qu'on, là, on va enfin retrouver Kevin qui va finalement choisir de réintégrer cette formation qu'est les Backstreet Boys. Les gars, ensemble, les cinq gars vont nous offrir deux albums consécutifs, In a World Like This et finalement DNA. What are the chances that we end up dancing like two in a million, like once in a life, that I could have found you, put my arms around you, like two in a million, like once in a life. What are the chances? What if I had an S for your name? Eh ben, Marika, tu nous as replongé en enfance. Je pense que le dernier album, on était déjà un peu plus vieux pour apprécier de la vraie bonne musique. On était passé à autre chose. Mais regarde, moi, je te propose qu'on se laisse sur Incomplete, qui est leur dernier gros succès, nous ayant marqué. Oui, si vous avez adoré revisiter l'univers des Backstreet Boys, ben, je vous invite sur Cube Musique qui nous a préparé une liste de lecture complète avec tous ces succès que je viens de vous faire entendre. Alors, bonne journée.
Merci beaucoup, Marika. You still wonder if we made a big mistake.
L'actualité peut être caniculaire. Donnez un coup de fraîcheur à l'information. Yasmine Abdel Fadel.
On a vu ça en fin de semaine. Air Canada qui refuse d'indemniser des passagers dont les vols ont été annulés ou reportés. Alors que selon la Charte canadienne des droits des passagers aériens, une compagnie aérienne doit prévoir des indemnités pouvant atteindre 1 000 $ en cas de retard et d'annulation dans des situations attribuables aux transporteurs et qui ne sont pas nécessairement par souci de sécurité. Air Canada dit non, on manque de personnel, c'est une question de sécurité, donc vous n'avez pas le droit à l'indemnisation. C'est assez particulier comme manière de faire. Et pour nous en parler, on a avec nous Monsieur Jacob Charbonneau, président directeur général et cofondateur de Vol en retard. Bonjour Monsieur Charbonneau.
Bonjour Madame Abdel Fadel.
Alors c'est quoi cette nouvelle? Qu'est-ce que Air Canada cherche à cherche à éviter en faisant juste appliquer cette nouvelle charte canadienne du droit des voyageurs?
Ben, en fait, ce qu'on voit, c'est la non-application présentement de la charte. Là, on tente d'utiliser la façon que la charte a été rédigée pour éviter de payer des indemnisations. C'est assez commun là, dans le monde aérien. Il y a justement un jugement qui était sorti contre WestJet pas plus tard que le 12 juillet là, 2022, où est-ce que l'Office du transport du Canada s'est prononcé pour mentionner que le manque d'équipage, les pénuries de personnel, les personnes qui ont fait trop d'heures n'étaient pas reliées à des raisons de sécurité et que c'est aux transporteurs de démontrer qu'elles ont fait tout en leur pouvoir pour éviter ce type de situation-là. Et de voir s'il n'y a pas eu de l'inaction. Et là, ça devient attribuable aux transporteurs. Donc, on doit verser des indemnités. Donc, c'est un petit peu la problématique qu'on vit présentement. C'est que, bon, les transporteurs tentent d'éviter de payer les indemnisations. Et même s'il y a un jugement qui va venir dans le futur, ils ne vont pas les obliger à rappeler les milliers de passagers auxquels ils ont mentionné qu'ils n'avaient pas le droit à les indemnités. Donc, d'où la pertinence de toujours aller valider les réponses qu'on reçoit et de s'assurer du bienfait ou de s'assurer de la véracité de ce qu'on nous mentionne.
Donc, ça serait pas, même si une décision arrive, elle serait pas rétroactive?
C'est rétroactif, mais les passagers qui ont reçu cette réponse-là, qui généralement vont pas plus loin, s'ils n'ont pas pris connaissance, le transporteur ne va pas les recontacter pour leur dire malheureusement on s'est trompé ou on vous a pas donné la bonne information. Vous avez finalement droit à une indemnité. C'est malheureusement pas comme ça que ça se passe.
Et on sait que les compagnies aériennes ont été durement touchées par la COVID. Là, s'en suit une reprise très difficile avec la pénurie de main-d'œuvre. Mais n'est-il pas important pour une compagnie aérienne de bien, entre guillemets, gérer ses clients qui ont rapidement déserté il y a 2 ans?
En fait, effectivement, les clients, c'est la raison d'être des transporteurs, bien qu'ils semblent l'oublier. Donc oui, c'est effectivement important de s'assurer, mais c'est aussi important de ne pas vendre plus de voyages qu'on est capable d'en servir, et c'est surtout la problématique qu'on voit. Donc il y a eu une reprise, on a injecté de la capacité, maintenant on annule des centaines de vols par jour par manque de personnel, par problématique interne, pour toutes sortes de raisons en fait. Donc ce qui arrive, c'est la problématique, c'est pas nécessairement juste le manque de personnel, c'est qu'on a mal planifié et là, on a mis à la disponibilité, au marché, plusieurs vols qu'on n'est pas capable de desservir. Et c'est plus ça, la problématique.
On a cette note qui demandait aux employés d'Air Canada de classer les vols annulés par manque de personnel comme un problème de sécurité. Elle a été émise le 29 décembre, mais en début d'été, avec le cafouillage dans les aéroports, Air Canada et WestJet ont annulé énormément de vols également. On parlait de plus de 150 vols par jour. Est-ce qu'on risque de voir plus de personnes potentiellement réclamer ces indemnisations le jour où la décision sera prise?
Ben, en fait, la problématique, c'est que les gens ont déjà commencé à faire des processus de réclamation. Nous, on le voit là, chez nous, il y a deux types de clients. Il y a des gens qui veulent le service clé en main, viennent nous voir, nous demandent de s'occuper de leur dossier. Mais il y a aussi la moitié des gens qui ont déjà fait des démarches, qui ont reçu un refus de la part du transporteur et reviennent nous voir par la suite pour qu'on puisse valider ce refus de la ligne aérienne. Et c'est souvent là que nous, on va les attraper. Malheureusement, les gens qui ont déjà soumis, si on ne va pas les informer concrètement que malheureusement, ils n'ont pas reçu une bonne réponse, ils ne vont pas resoumettre leur dossier comme ils ont déjà eu un premier refus. Et c'est la grande problématique de ce type de situation-là. Et c'est d'ailleurs pourquoi on a lancé l'assistant virtuel via les agences de voyage, la paix d'esprit, qui suit les voyageurs, mais qui les informe sur leurs droits et les obligations du transporteur en temps réel.
On parle beaucoup de cette question d'annulation de vol pour des raisons de sécurité. Est-ce qu'il y a d'autres pratiques des compagnies aériennes que vous voyez au quotidien qui portent atteinte ou qui cherchent à éviter l'application de la Charte canadienne des droits des voyageurs?
Vous savez, on a vu toutes sortes de choses jusqu'à entendre les clients se faire dire malheureusement, il y a une crise présentement dans l'industrie aérienne, alors ça ne donne pas le droit à des indemnisations. Alors que c'est très flou comme réponse et que ça prend une raison précise pour une situation précise, pour un vol précis, alors qu'on entend ce genre de réponses-là qui sont données aux consommateurs. Donc, c'est très dommage. On voit aussi toutes sortes de cas où est-ce que les gens n'ont aucune information encore. On sait que la charte, le but premier de la charte, c'est de tenir les gens informés. Puis il y a encore beaucoup de lacunes face à ça.
Comment le citoyen et le consommateur peut se protéger de ces informations floues, pas complètes, et de se protéger ses droits futurs?
Bien, évidemment, ça passe par l'éducation, c'est de connaître ses droits, et c'est pour ça qu'on a lancé cet assistant virtuel que je mentionnais un petit peu plus tôt, qui va suivre le voyageur et qui va l'informer au moment précis sur les droits, sur sa situation au moment où ça se passe, parce que ça fait toute la différence. Si ça n'est que, par exemple, suite à un retard de vol, le transporteur se doit de reprotéger les passagers quand c'est attribuable au transporteur après 3 heures sur n'importe quelle ligne aérienne avec qui ils ont une entente commerciale. Ils ne peuvent pas le faire après 9 heures, dans les 9 premières heures, avec n'importe quelle ligne aérienne avec qui ils n'ont pas d'entente commerciale. Mais c'est le type d'information que les passagers ne savent pas et que le transporteur ne va pas offrir au client s'il ne le demande pas. Donc, d'où l'importance de bien connaître c'est quoi les obligations du transporteur.
Est-ce qu'il y a une période après laquelle les voyageurs qui ont été finalement, qui n'ont pas eu le droit au service pour lequel ils ont payé, ils peuvent réclamer une période de prescription de réclamation pour les voyageurs?
Il y a effectivement des périodes de prescription, notamment au Canada, les gens ont 1 an pour faire leur demande. Pour les retards, annulations. Pour les bagages, c'est seulement 21 jours, donc il faut être très rapide. Puis, bon, dépendamment là, si on touche sur des vols européens, les délais sont un petit peu différents parce que, bon, selon les pays, il y a différents nombres d'années qui vont s'appliquer. Mais le 1 an au Canada est très important.
Évidemment, la Charte des voyageurs, elle est nouvelle, disons, dans son application, mais l'Europe, disons, ils sont plus précurseurs que nous dans la protection des voyageurs. Est-ce qu'il y a des différences dans l'application, notamment des vols annulés pour des raisons de sécurité qui cachent derrière une pénurie de personnel?
C'est sûr qu'ils sont beaucoup plus précurseurs et pro-consommateurs, donc même de la façon que la loi a été rédigée est beaucoup plus claire au niveau européen. Dans tous les cas, le transporteur doit démontrer, même lorsque c'est une circonstance extraordinaire, qu'ils ont fait tout ce qu'il est possible pour éviter la situation. Si c'est un bris mécanique, c'est couvert, c'est attribué au transporteur. Alors qu'au Canada, c'est pas nécessairement attribuable au transporteur, à moins que ça ait été relevé pendant la maintenance. Ce qui est à peu près impossible à savoir pour le consommateur. Donc, il y a beaucoup de petites différences sur la façon que le règlement a été rédigé en la faveur des consommateurs au niveau européen et en la faveur des transporteurs, malheureusement, au niveau canadien.
Et en fait, c'est ça, on lit que c'est différent en Europe. Tu sais, souvent, on dirait que les Européens sont beaucoup plus précis dans l'application des règles pour les voyageurs. Est-ce qu'il y a un voyageur en particulier canadien qui est comme un cancre dans le service à la clientèle puis dans le respect de la réglementation? Est-ce que c'est WestJet? Est-ce que c'est Air Canada, Transat? On se pose la question.
Malheureusement, ça s'applique pas mal à tout le monde. Donc, de ce qu'on voit, même au niveau européen, où est-ce que le règlement est plus clair, les transporteurs semblent toujours tenter de trouver des nouvelles façons d'éviter d'avoir à payer l'indemnisation. Sachant très bien que la plupart des gens, dans 75% des cas, lorsqu'ils ont reçu un premier refus, n'iront pas plus loin, continueront pas leur démarche. Donc, c'est un peu le jeu qui est joué là, par les transporteurs pour éviter à payer des indemnisations. Et c'est exactement pour ce type de situation-là qu'on existe et qu'on aide les passagers à obtenir leur indemnisation.
Monsieur Charbonneau, merci beaucoup d'avoir été avec nous et nous avoir apporté votre éclairage. On rappelle que vous êtes président, directeur général et cofondateur de Vol en retard.
Je vous en prie.
Yasmine Abdel-Fadel. Une main de fer dans un gant de velours. Un vent de fraîcheur qui décoiffe.
J'aimerais revenir sur la question de la fierté hier et ce cafouillage. Tu sais, hier, il y a eu différentes versions. Il y a eu la version principale, la première, où il manquait C'était pour des raisons de sécurité qu'on annulait. Pour des raisons de sécurité, c'était assez flou, c'était assez large, on spécifiait pas. Ensuite, on disait que c'était de prix d'un commun accord avec le SPVM. Pour qu'ensuite on apprenne que les SPVM eux-mêmes se sont fait annoncer que le défilé de la fierté était annulé. Et finalement, ce matin, ben, le chat sort du sac et Fierté Montréal avait tout simplement oublié d'embaucher du personnel. Quand tu reçois autant d'argent, de l'argent des contribuables, de l'argent du fédéral et du provincial, est-ce que vraiment tu peux te permettre d'oublier d'embaucher une centaine de personnels? C'est quand même assez fou, là. T'sais, ils reçoivent de l'argent de la Ville de Montréal, le gouvernement du Québec, de Tourisme Montréal, du fédéral. C'est beaucoup d'argent pour un cafouillage comme tel. Je peux pas croire qu'on se rende compte la veille que 100 personnes qui devaient être rémunérées, là, on parle pas de bénévoles, 100 personnes qui devaient être rémunérées n'ont tout simplement pas été embauchées. Je comprends que l'erreur est humaine, mais je peux pas croire qu'un comité ne se dise pas quelques jours avant qui n'ont pas une checklist, là, tu sais. Hey, on a-tu notre personnel de sécurité? Il va-tu être en place? Y a-tu été briefé? Y a-tu personne qui s'est posé cette question-là? C'est fâchant. Et imaginez tous les autres commanditaires. Les commanditaires qui ont payé très cher pour avoir leur char allégorique, pour avoir leur couleur au défilé de la fierté, qui finalement se retrouvent bec à l'eau, finalement c'est annulé, puis c'est notre erreur. L'année prochaine, là, les entreprises, les gouvernements, ils vont poser plus de questions avant de faire un chèque à Fierté Montréal. Ils vont se dire, est-ce que vous êtes vraiment en mesure de livrer? Contrairement à l'année dernière, par rapport à ce qui s'est passé hier, ils vont se poser la question, et avec raison. Moi, quand j'apprends que 600 000 a été donné par la Ville de Montréal, je m'attends à ce que le gouvernement, la Ville de Montréal et la mairesse Plante se tournent vers Fierté Montréal pour dire, bon, ben vous avez fait quoi avec le 600 000? Je m'attends à ce que Tourisme Montréal se tourne pour dire, vous avez fait quoi avec notre argent? C'est quand même un événement qui est important. Puis je suis sûre que Tom Mulcair, qui revient de ses vacances, qui revient en forme, trouve que ça n'a aucun bon sens, au même titre que moi. Bonjour, Tom.
Salut, Yasmine.
Alors, ce cafouillage-là, j'en parlais, j'arrive pas à y croire encore ce matin.
Non, moi non plus. Honnêtement, pour avoir participé à beaucoup, beaucoup, beaucoup de parades de la fierté à Montréal, toujours une réussite, grand événement, d'année en année, ça allait en augmentant. Et voilà que hier matin, comme tout le monde, je lis ça, puis je dis, non, attends, tu peux pas juste annuler ça, il doit avoir une raison. Et au fur et à mesure de la journée, une fois qu'on avait passé les 52 théories de conspiration différentes, c'est la police par-ci, puis c'est l'autre par-là, non, c'est quelqu'un qui a pas fait sa job. Ils ont oublié d'embaucher la centaine de personnes qui devaient être rémunérées pour garder un petit peu l'ordre. Et ça, c'est très important lors de la parade, parce qu'on a des chars allégoriques. Il y a quelques années à peine, l'autre grande parade de Montréal, qui est la parade de la Sainte-Patrick au mois de mars, il y a eu quelqu'un qui a été tué.
Oui.
Parce que, bon, ça fait soir un tout petit peu lors de cette parade-là. Et un jeune s'amusant est allé jouer entre deux chars allégoriques et il a été tué. Donc, c'est important que les gens respectent les bornes, les limites qui sont là et qu'on continue de fêter et que ça soit juste une fête. Comment est-ce que ça peut arriver? En tout cas, moi, j'ai trouvé l'organisation d'une transparence rafraîchissante hier lorsqu'ils ont dit « on a foiré ». On a complètement manqué notre
Mais
shot.
Mais pouvait-il dire autrement, Tom?
Ben oui! Il me semble évident que s'il s'était rendu compte de ça avant, la mairesse Plante l'a dit elle-même. Elle dit, « Allô, si vous m'aviez dit qu'il vous manquait une centaine de personnes, elle aurait pu envoyer une centaine de policiers. » Il y a mille et une solutions qui auraient été imaginables. Puis comme je t'ai entendu dans ton petit laïus tantôt, c'est pas juste pour la communauté LGBTQ+, de Montréal. Il y a des gens qui viennent de partout au Canada. Il y a des gens qui viennent de partout dans le nord-est des États-Unis. C'est la plus belle ville avec la plus belle parade. Puis juste de décider de même d'annuler tout bonnement, ça n'avait aucun bon sens, même si ils sont assez solides pour admettre tout bêtement que c'est une erreur. Il y avait des solutions possibles. La mairesse Plante le disait.
Mais c'est pour moi, il y a deux erreurs. Il n'y en a pas juste une. Il y a la première, celle de you had only one job to do, c'est celle d'embaucher 100 personnes, puis tu ne l'as pas fait. Mais ensuite, c'est de t'en rendre compte le matin même, alors que tu aurais pu juste avoir une checklist. Tu sais, on s'attend à ce qu'il y ait des checklists là, pour le défilé de la Fierté de Montréal.
Ah ben oui. Et donc, il y en a qui font une analyse de Fierté Montréal de ce temps-ci parce qu'il y a eu un grand coup de balai. On a changé les têtes d'affiche, changé le monde, puis ils ont plein de récriminations, puis ils continuent toutes leurs affaires de lobbying, puis de présence et tout ça. Mais il y a un événement phare pour Montréal, pour sensibiliser les gens. Et d'ailleurs, c'est la raison principale pour laquelle j'assistais à ces parades-là, parce qu'il y a toujours de la discrimination, il y a toujours des droits qu'il faut défendre. C'est une communauté qui sait ce que c'est de faire l'objet de discrimination et de vivre ces réalités-là. Alors, la parade est une manière de dire, on embrasse cette ouverture, cette inclusion, on fait partie de la solution, on ne veut pas continuer avec les attitudes du passé. Mais avec un tel résultat, malheureusement, il y en a qui vont dire c'est une gang qui ne savent même pas organiser leur propre parade, c'est la seule chose qu'ils ont à faire dans l'année. C'est pas vrai que c'est la seule chose qu'ils ont à faire dans l'année, c'est pas juste, mais de dire qu'ils ont foiré ça, c'est de le dire gentiment.
Comment penses-tu que les autorités publiques qui ont contribué financièrement à l'organisation de cet événement vont réagir?
Très mal, puis si je peux me permettre de dire, quand on fait la parade, comme je dis, je l'ai fait au moins une douzaine de fois, quand on fait cette parade-là régulièrement, il y a des grandes institutions, des grandes banques, par exemple, qui paient une fortune, qui amènent pour montrer leur inclusivité, leur ouverture. Ils ont des chars allégoriques, ils ont leurs employés qui sont venus à Montréal pour participer, et ainsi de suite. Puis eux, ils vont dire, regarde, là, c'est tellement boboche, là, c'est tellement deux de pique cette affaire-là, l'année prochaine, on n'est pas là. Et c'est ça qui m'inquiéterait le plus si j'étais à Fierté Montréal. C'est évident que la personne responsable qui a accusé le coup hier, cette personne-là va flyer à la première réunion. Il me semble que ça, c'est assez très clairement écrit dans le ciel, à moins qu'ils ont une autre version de ça. Moi, ça me surprendrait que la personne, comme tu disais si bien, tu sais, you have one job to do. Si cette personne la reste, là, les gens vont vraiment se gratter la tête. Mais ça ne changera rien au fait que l'année prochaine, ça va être un énorme défi. Puis, en plus, là, hier, on a eu droit à plein de pluie en après-midi, mais pour la parade, le timing, la journée, c'était magnifique. Et j'en reviens tout simplement pas. Vraiment, c'était très, très, très
ce qu'on pouvait pas prévoir, c'est aligné, tu sais, la météo, la température, puis ce qu'on pouvait très bien prévoir, c'est pas aligné.
Mais oui. Non, mais c'est vraiment plate. C'est vraiment plate. Puis, c'est féerique comme activité. On est à la fin des deux semaines de vacances de la construction, on cherche une activité. Les familles, ils vont en très, 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 très grand nombre. Et pas besoin d'avoir quelqu'un dans la famille qui est dans la parade, mais il y a très peu de gens qui n'ont pas un proche, un ami, un membre de la famille, un voisin, quelqu'un au travail qui n'est pas membre de la communauté. Et c'est aussi une manière de dire, j'embrasse cette diversité, cette inclusion.
Mais c'est de la diversité, c'est une fête de la diversité, haute en couleur, de la bonne
et de
musique.
Et de respect de droit. Exactement. Parce que ça prend toujours des gens pour se battre pour ça aussi.
Pour une fois qu'on fait des défilés pour célébrer la diversité plutôt que de dénoncer l'exclusion.
Ben oui.
Portons-y une attention particulière l'année prochaine.
Ouais.
Et il y a notre Justin Trudeau national que le Toronto Sun pourrait dire. En fait, il y a une petite hypothèse qui dit que Justin Trudeau pourrait partir en élection dès cet automne pour se faire réélire.
Ouais, on pourrait croire que le Toronto Sun est en train de prendre ses rêves pour la réalité parce qu'ils n'aimeraient rien de mieux parce qu'ils sont très pro-Poilievre, très pro-conservateurs. Et ils disent, peut-être qu'il y aurait des élections à l'automne. Puis Kinsella, qui est un gars qui écrit depuis longtemps, qui est assez amusant, merci, et il donne quand même une liste pas totalement implausible de raisons pour lesquelles Trudeau pourrait être tenté d'y aller cet automne.
Mais il y en a beaucoup qui sont tirés par les cheveux pareil, Tom.
Presque tout.
Ouais, c'est ça.
C'est en lisant que c'est pour ça que je dis prendre ses rêves pour la réalité, parce que la droite n'aimerait rien de mieux que d'en découdre avec Trudeau pendant que Pierre Poilievre est encore une monnaie inconnue, qui brille, qui aura son moment au soleil. Puis ça, puisque toi et moi, on n'a pas eu l'occasion d'en parler, Yasmine, ça nous rappelle quand même
oui.
que Stephen Harper et sa gang ont totalement contrôlé le résultat maintenant prévisible de cette course-là. Parce que Jean Charest, le 4 juillet, a publié un papier très intéressant pour ses supporters, disant « Écoutez, là, moi, j'ai un chemin possible vers la victoire, et le voici. » Alors, il a expliqué les votes, sans nommer Patrick Brown. Tout le monde comprenait que avec les deuxièmes choix des votes de Patrick Brown, puis d'autres, il avait la possibilité, parce que c'est basé comté sur comté. C'est pas parce que Poilievre a 100 000 cartes de vendus en Alberta que ça change la mathématique de cette course-là. Et moi, j'avais écrit un papier disant, faites attention, là, c'est la gang de Harper en arrière de tout ça. Et voilà que quelques jours plus tard, Stephen Harper est sorti clairement pour appuyer Poilievre. Parce que les gens qui prenaient les décisions au Parti conservateur, quand ils ont décidé de pitcher Patrick Brown par-dessus bord et dire que le gars n'était plus candidat, ouais. c'était cousu de fil blanc. Et c'était le prétexte le plus vraiment dingue que tu n'as jamais vu. « Oh, il a fait ci, il a fait ça. » Oui, mais tu ne peux pas décider ça. Tu veux l'envoyer à Élection Canada, envoie-le à Élection Canada, c'est leur job, c'est pas le vôtre. Et donc, Brown n'étant plus là, Charest a perdu un peu ce chemin possible vers la victoire. Je continue d'admirer la détermination et l'optimisme de Charest et de ceux qui sont autour de lui, mais moi, je regarde ça comme proposition justement mathématique et je ne vois plus comment il a cette possibilité-là.
Tom, as-tu vu les chiffres que le Globe and Mail a rendus publics aujourd'hui concernant l'impact de l'appui de Stephen Harper sur les militants conservateurs? C'est assez fascinant, honnêtement. Moi, je ne m'attendais pas à voir ça.
Qu'est-ce qu'ils ont dit? Je l'ai manqué.
Les militants conservateurs voient d'un mauvais œil l'appui de Stephen Harper à 35%.
Oui, c'est pas étonnant parce que Harper était quelqu'un qui jouait dans les clivages tout le temps. C'était un être humain profondément divisé. Mais ça nous permet d'analyser une petite chose de plus là-dedans. Moi, j'étais là, évidemment, j'étais un des adversaires de M. Trudeau lors de l'élection de 2015. J'étais le chef du NPD. Et moi, je me souviens quand Harper a pris une décision de lancer la campagne électorale la plus longue de l'histoire du Canada. Il a ajouté un 5-6 semaines, puis on était assez bien briefés, merci. Donc, nous, on savait que la réflexion des gens autour de Stephen Harper était la suivante. Eux, ils disaient, Trudeau est nul, il n'a rien dans la tête, ça va paraître, il faut lui donner plus de temps pour les Canadiens et Canadiennes se rendent compte que c'est un gars qui n'a rien entre les deux oreilles puis il ne peut pas faire ça. Ça, c'était ce qu'on appelle en anglais du « wishful thinking ». Hein? Ça, c'est prendre ses rêves pour les réalités. Ils regardaient ça. Mais le problème, c'est que ça produit exactement l'effet inverse. En donnant plus de temps à Trudeau, la campagne s'était tirée sur presque 3 mois, en donnant plus de temps à Trudeau, chaque fois qu'il était dans un débat, les gens disaient « Mais il est pas si pire que ça. »
Mais les attentes étaient tellement basses qu'il arrivait à dépasser les attentes du monde.
Ben oui, mais ça a marché. Et là, au lieu d'y aller le plus court possible et essayer de les prendre, là, ça s'appelle réfléchir trop. Moi, j'ai l'impression que les gens autour de Trudeau sont en train de faire le même pari. Ils sont en train de se dire, regarde, on va donner 2 ans à Pierre Poilievre pour montrer que ses idées complètement dingues sur la crypto-monnaie, puis tout le monde devrait acheter du bitcoin, puis je vais congédier le gouverneur de la Banque du Canada, puis toutes les folies que ce gars-là est capable de sortir. Là, les gens vont se rendre compte qu'il est dingue et qu'il ne mérite pas d'être premier ministre. Je pense que c'est le même mauvais calcul dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il ne faut pas calculer que tu sais que la personne que tu n'aimes pas ne va pas être aimée du public. Poilievre est en train de rafler ça avec sa base conservatrice. On a beau dire, c'est une gang de flyers, il n'a aucune chance, mais plus il donne du temps à Poilievre de se montrer plus raisonnable que ça, plus il donne du temps à Poilievre de commencer à décortiquer et critiquer le bilan économique du Parti libéral et le gouvernement de Trudeau, je suis pas convaincu que ça va marcher en leur faveur. Donc, il y a un élément dans cette analyse du Toronto Sun qui prêche en faveur des libéraux de songer à prendre un petit peu plus de cours pour aller à la place. Ils vont se garder, ils ont jusqu'à 3 ans dans leur deal avec Jed Mixon. Ils vont regarder le calendrier, probablement après 2 ans, si Trudeau reste. Mais je suis de moins en moins convaincu que Justin Trudeau veut continuer là-dedans. Il peut gagner une fortune sur le marché privé en étant sur le conseil d'administration de grandes entreprises.
Et de voyager ici, comme il veut, dans les dates qu'il veut.
Et s'acheter toutes les chaussettes qu'il veut. Et là, le public va être... Le public, il commence sa 8e année au mois d'octobre. Ouais. Il commence sa 8e année au pouvoir. Un bilan honorable en termes du temps.
Bien sûr.
Le temps décidera si le bilan est vide ou bien rempli. Il a quand même eu 2 ans et demi de pandémie là-dedans et je crois que d'une manière générale, le gouvernement de Trudeau a bien fait ça.
Oui.
Mettant de l'argent dans les poches des gens pour qu'ils mettent une épicerie.
Une bonne gestion des vaccins également.
Oui, oui. Et je pense que dans l'ensemble, ce bilan-là, le bilan social est en train d'être quand même bien rehaussé grâce au deal avec Singh, parce que même si nous, on a déjà un programme pour les jeunes, pour les dentistes, le reste du Canada n'a jamais vu ça, puis ça va être grâce au fait que Trudeau penche un petit peu à gauche pour faire plaisir au NPD. La personne qui devrait être le plus nerveux de ce temps-ci, c'est Jagmeet Singh et le NPD.
Dont on n'entend pas parler de lui, il n'est pas là, il n'est pas présent, il a laissé sa place à Justin Trudeau.
Il est venu pour la parade de la fierté.
Puis elle n'a pas eu lieu.
Il n'a même pas eu ça, non.
Tom, on en reparle demain. Merci beaucoup.
Nom, Abdel Fadel. Prénom, Yasmine. Mission, nuancer l'actualité pour vous offrir des perspectives. Force, connaissance accrue de la politique et une polyvalence hors du commun. Yasmine Abdel Fadel.
La nouvelle façon de comprendre l'actualité.
Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio.
En direct à LCN.
Notre rendez-vous avec Yasmine à Cube Radio. Bonjour Yasmine.
Bonjour Simon.
Écoute, on ne peut pas passer sous silence le cafouillage dans la journée d'hier avec Fierté Montréal, le défilé qui a été annulé à la toute dernière minute.
Tu sais, d'habitude, on dit on prévoit tout ce qu'on peut prévoir, puis on prie pour ce qu'on ne peut pas prévoir. Ben, hier, la météo était à l'ordre du jour, était au rendez-vous, mais visiblement pas les organisateurs. Comment peut-on oublier d'embaucher 100 personnes. Il me semble que c'est le béaba de l'organisation d'un événement fort, non seulement au Québec, non seulement à Montréal, mais au Canada, voire même en Amérique du Nord, parce qu'il y a plusieurs touristes américains qui traversent la frontière pour venir y assister. Et je me dis, les négociations vont être difficiles l'année prochaine avec les commanditaires, puis avec le gouvernement du Québec, Tourisme Montréal, la Ville de Montréal, qui mettent beaucoup de sous, là, on l'oublie, mais il y a beaucoup d'argent des contribuables qui est mis dans l'organisation du défilé de la fierté. Et le fait d'avoir oublié d'embaucher du personnel ne me semble pas une réponse qui soit juste, qui soit valable pour dire, ben c'est pas grave, on va se reprendre. Oui, on va se reprendre, mais ça démontre un amateurisme dans l'organisation d'un événement qui est beaucoup trop important pour le rayonnement de notre ville et de notre caractère inclusif et de diversité pour laisser ce genre d'événement complètement chaotique. Moi, je peux pas croire que ce soit ça. Honnêtement, là, même ce matin, je me dis, ça se peut pas. Il doit y avoir autre chose qui puisse justifier ça. Mais non, on a juste oublié. C'est ça.
Mais Yasmine, moi, ce que je comprends pas, c'est qu'on n'a pas tenté de trouver une solution. La Ville de Montréal disait, on n'a pas été mis au courant de cette situation-là. On l'a appris en même temps que vous.
Bien, c'est ça, j'en parlais avec Tom Mulcair il y a encore quelques minutes, puis je me dis, il me semble que quand on organise un événement de cette envergure, on a ce qu'on appelle en bon anglais une checklist, là, tu sais. On vérifie qu'est-ce qui a été fait à date, on a un agenda de ce qui doit être fait. Tu sais, c'est la gestion des projets, le béaba de la gestion de projet, puis t'as pas besoin d'avoir un doctorat en gestion de projet pour le prévoir, de dire... Ben pour cette date-là, il faudrait avoir embauché le personnel, il faut l'avoir formé, il faut l'avoir briefé. Qu'on s'en rend compte la veille, au soir ou le matin même, c'est qu'on ne l'a ni embauché, ni briefé, ni organisé. Fait que ça remonte, c'est de l'incompétence et des oublis qui se sont accumulés. Et s'ils avaient levé la main à la Ville de Montréal avec d'autres partenaires, je suis pas mal sûre qu'on aurait pu avoir un défilé qui était fort attendu après 2 ans de pandémie. On n'a pas juste échappé la balle, on a déçu des festivaliers, on a déçu la communauté LGBTQ+, on a déçu des commerçants qui s'y attendaient. Et on a déçu des touristes qui sont venus de partout parce qu'on est connus pour notre défilé de la fierté.
Et on se posait la question, Yasmine, ce matin avec des collègues. Hier matin, au lieu de sortir un communiqué en mentionnant que c'est annulé, est-ce qu'on n'aurait pas pu, à la place, sortir un communiqué en disant « Il nous manque 80 personnes pour que le défilé puisse avoir lieu. » Est-ce que la communauté n'aurait pas pu mettre la main à la pâte? On sait que c'est une communauté qui est tellement tissée serrée, bien, ça aurait peut-être pu sauver l'événement.
Bien, la communauté montréalaise, pas nécessairement spécifique à la communauté LGBTQ, ouais. Elle aurait répondu présente. Il y aura des personnes, il y aurait eu des personnes qui se seraient déplacées pour venir donner un coup de main à l'organisation du défilé. Combien de chars allégoriques sont restés fermés dans des garages hier matin? Combien de personnes étaient habillées, préparées pour venir défiler dans ce défilé? Combien il y a d'entreprises qui ont ramassé des employés, qui les ont motivés à venir prendre part à ce défilé? Et là, ce qu'on se permet de leur dire, c'est d'émettre un petit poster sur Instagram et Facebook, puis d'aller voir les policiers, puis leur dire « Ouais, ouais, et on n'aura pas de défilé. » Je comprends la frustration du monde, là. C'est amateur. C'est très amateur. Puis j'espère que Fierté Montréal va donner de sérieuses réponses sur ce qui s'est passé. Pas juste hier, pas juste avant-hier, parce que ça se décide pas la veille d'un défilé de cette envergure. Ça se décide des semaines, voire des mois à l'avance.
Yasmine, on change de sujet complètement et on parle des cachotteries, on peut dire ça ainsi, de la fonderie Horn. Également de ciment, de la cimenterie Mécanis en Gaspésie.
Et c'est là où il y a un dénominateur commun entre la cimenterie Mécanis en Gaspésie puis il y a la fonderie Horn à Rouyn-Noranda. Ils ont beau être éloignés géographiquement, un dénominateur commun converge, celui du manque de transparence. On voit qu'il y a des problématiques de rendre publiques certaines données auxquelles les personnes qui habitent autour, les personnes qui vivent cette pollution-là, cette pollution aérienne, ont le droit de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui respire, c'est quoi cette poussière dans le cas de la cimenterie Mécanis qui détruit leur jardin, qui salit leurs fenêtres, leurs voitures et leurs maisons. Mais non, on est toujours dans le monde de la cachotterie. Et tu sais, ça me rappelle un film, un vieux film qui était très bon puis que j'adore réécouter de temps en temps, celui de Erin Brockovich avec Julia Roberts qui se transforme en une justicière d'une entreprise qui, finalement, pollue l'eau d'un certain village. Ben, c'est ça que ça donne, c'est que le monde ne font plus confiance à ces entreprises qui nous jurent la main sur le cœur, qu'elles vont être transparentes, qu'elles vont prendre soin de la population autour. Peut-on leur faire confiance? Est-ce que le gouvernement peut leur faire confiance? On va le savoir demain. La Commission de l'accès à l'information va écouter ce citoyen qui se bat depuis 2 ans pour connaître les matières qu'il y a dans les matériaux fournis par les fournisseurs de la fonderie Horn. Est-ce qu'il va avoir réponse à ces questions? Parce que il le mérite, mais tout le Québec mérite de savoir quelle est cette information que l'on essaie de nous cacher. Le gouvernement devrait se tenir debout là-dessus.
Et on comprend les citoyens de ces deux régions-là d'être inquiet avec ces situations. Yasmine, passe une belle journée.
À demain.
Yasmine Abdel-Fadel.
Pour nous rejoindre en studio.
Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
187 cube radio.
1-877-827-2346.
On continue donc notre série estivale des députés marquants qui quittent la vie politique cette année, qui ne se représenteront pas lors des prochaines élections provinciales. Et aujourd'hui, on reçoit Lise Thériault, députée d'Anjou-Louis Riel, à tout le moins jusqu'au 3 octobre prochain pour le Parti libéral du Québec. Bonjour, Madame Thériault.
Bonjour.
Donc, c'est votre, vous êtes dans vos dernières semaines à titre de députée. Est-ce que ça vous manque déjà?
Ben, je peux pas dire que ça manque déjà. C'est sûr qu'après 20 ans de vie politique, alors que ça fait déjà presque un an que j'ai annoncé mon retrait de la vie politique, je peux dire que j'ai eu le temps de bien me préparer, me minder, comme on dit, en bon québécois, au fait que dans un peu moins de 2 mois, ben, je serai plus députée d'Anjou-Louis Riel.
Qu'est-ce qui vous a poussé dans cette décision? Parce que on peut pas mettre 20 ans de vie politique derrière nous aussi facilement.
Ben, je vous dirais la principale raison, c'est la vie. Vous savez, à cette occasion, j'ai choisi la population, j'ai choisi de servir mes concitoyens. Puis à la huitième fois, ben je me suis dit peut-être qu'il serait temps que je me choisisse. Et alentour de moi, ben c'est sûr que quand tu prends de l'âge, que tu vois tes amis être touchés par la maladie ou par la mortalité, tu dis ben là, peut-être qu'il faudrait que j'en profite avant que je sois plus capable de le faire. Puis honnêtement, ça a été vraiment la seule motivation en me disant bon ben j'en ai gagné 7, là, je pense que pour la huitième, je vais passer mon tour.
Vous avez été ministre du Travail sous le gouvernement Charest. On se rappelle le bras de fer que vous avez tenu pour éliminer le placement syndical dans les chantiers de construction. Est-ce que c'est une période qui vous a fait peur de la vie publique?
Ben, ça m'a pas fait peur, mais c'est vrai que ça a été une période qui était assez rock'n'roll. C'est évident, un, j'ai eu des menaces de mort. On a augmenté ma sécurité. À un certain moment donné, j'avais 2 gardes du corps. Ça brassait sur les chantiers. Je pense que j'avais beaucoup plus peur pour les travailleurs de la construction qu'on sortait carrément, qu'on battait. Il y avait un travailleur qui était dans le port de Trois-Rivières dans l'eau et on a coupé l'alimentation au moment où il était dans l'eau, donc ce qui a coupé l'acheminement d'air, évidemment. Donc, c'est sûr que c'était pas évident. Par contre, je dois vous dire que moi, quand on fait de l'intimidation, je fais pas 5 et 8, je suis rendue que j'en fais 7 et 2, puis c'est pas comme ça qu'on est capable de changer les choses. Fait que ça n'a fait que renforcer ma détermination et renforcer la détermination du gouvernement d'aller de l'avant.
Il y a eu votre passage également sous le gouvernement Couillard comme ministre de la Sécurité publique et vous étiez vice-première ministre également au début du mandat de Philippe Couillard. On se rappelle d'un moment très émotif, celui de la... il y a eu une fuite finalement de la prison d'Orsainville. Comment vous voyez ce moment-là de votre vie en politique avec du recul?
Ben, je vous dirais que c'est sûr qu'une évasion de quelqu'un qui part d'une prison, c'est comme pas évident, c'est pas courant non plus. Moi, je pense qu'on a fait ce qu'on avait à faire. J'ai mandaté quelqu'un pour faire la lumière sur toutes les évasions, savoir qu'est-ce qu'on aurait pu faire, parce qu'il faut se rappeler que quelques mois auparavant, c'était arrivé sous le Parti québécois, si je ne me trompe pas. Fait que c'est ça qui... Oui, je pense qu'on a amélioré les processus. Puis vous savez, le ministre, oui, c'est le personnage politique qui va décider ou qui va donner les grandes orientations. Mais c'est sûr que je pense qu'avec chaque rôle de ministre, on apprend, on va de l'avant. Puis je vais dire, comme je dis, quand tu apprends qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, on ne le savait pas avant que ça fonctionnait pas.
Non.
Là, ça fonctionne pas. Ben, c'est là qu'il faut faire les changements. Puis c'est là qu'il faut avoir le courage de prendre des décisions puis de dire, ben, on va faire rapport. Voici ce qu'on va faire. Voici ce qu'on va changer. Puis après ça, d'aller convaincre les collègues au Conseil des ministres de mettre l'argent pour le faire. Donc, moi, je pense que chaque expérience qu'on a eue dans notre vie de ministre, qu'elle a été bonne ou moins bonne, ça nous force à être une meilleure personne puis à aller de l'avant, prendre les meilleures décisions.
D'ailleurs, dans votre vie politique au cours des 20 dernières années, il y a eu des moments assez... on a parlé de la fin du placement syndical, on a parlé de l'évasion d'Orsainville. Plus récemment, il y a eu un autre moment, je vous dirais, important dans votre vie politique. C'était celui sur votre sortie à propos de Jean Charest. Oui. Et on vous a senti très émotive. Qu'est-ce qui a justifié cette émotivité-là?
Ben moi, je suis une fille de justice sociale. Que les, tu sais, la game politique là où les gens vont être prêts à descendre dans le caniveau pour salir les réputations des autres. Moi, ça m'écœure. Puis ça venait du monde qui, en plus de ça, avait absolument aucune leçon à donner à n'importe quel politicien de ma formation politique. Moi, à force de me faire traiter de voleurs, de bandits. Quand c'est pas vrai, là, à un moment donné, la coupe a débordé. Puis à ce moment-là, pour de vrai, là, écoute, là, le chef du PQ qui est en chambre, il a été reconnu inhabile à siéger par la commission des affaires municipales parce qu'il a réclamé des dépenses qu'il n'aurait pas dû. Ça, c'est une... T'es coupable, comprenez? Là, l'autre qui a embelli son CV, Éric Kerr pour la CAQ, hey, si c'est pas avoir maquillé quelque chose, c'est grave, ça, t'as falsifié un document. pour une course à la chefferie. Puis ce beau monde-là se permet de faire la morale sur Jean Charest, alors que Jean Charest, puis je vais faire une comparaison, Guy Ouellet, de la manière dont l'UPAC a traité son dossier, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est vraiment, il a été freiné en bon Canadien-Français, ben, on peut se poser la même question sur Jean Charest. Moi, je vis encore dans une société de droit et on ne peut pas rendre le monde coupable sur la place publique quand on n'a absolument aucune preuve et aucune accusation. À partir du moment où c'est peut-être bien le fun de casser du sucre sur le dos de Jean Charest, moi, là, j'ai été ministre de Jean Charest. Et à chaque fois qu'on va dire « Ah, les libéraux sont des corrompus, savez-vous quoi? » Je serai toujours prête à sortir pour dire « C'est pas vrai. » Puis avant de parler de notre formation politique, voulez-vous vous regarder? Ça, je pense que c'est juste correct. Puis évidemment, ben, tu sais, je pense qu'il y a des manières différentes de faire de la politique. Puis quand on dit quelque chose, on peut s'assurer que ce soit, que ça repose sur des vrais faits et non pas sur des vous dire puis des peut-être que. Puis ça, ben, c'est sûr qu'à un moment donné, ça passe plus. Puis
on voit que ça vient encore vous chercher.
Ben, c'est parce que, vous savez, quand on décide de faire la politique, là, moi, j'ai passé 20 ans à faire de la vie politique, là, ma passion, je me suis lancée là-dedans. Et la seule chose qui me reste quand je sors de la vie politique, c'est ma réputation. C'est ma réputation, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai accompli. Puis quand je vois des gens qui dénigrent sciemment un adversaire politique, ben, je trouve que trop, c'est comme pas assez. Fait que je pense que les chefs des autres formations politiques, ils ont compris qu'ils pouvaient garder une petite gêne.
Il y a 6 jours, vous avez co-signé une lettre ouverte avec plusieurs autres femmes, donc plusieurs de vos collègues provinciales, Christine Saint-Pierre, Kathleen Veil notamment, pour dire que Jean Charest est un allié des femmes. Et ça s'inscrit oui. dans la course conservatrice au leadership au fédéral. Madame Thériault, est-ce que vous seriez tentée éventuellement de rejoindre un Jean Charest si jamais il était élu chef du Parti conservateur du Canada?
Honnêtement, comme députée fédérale, pas du tout, parce que la vie politique, je tire un trait. Puis c'est comme j'ai 2 heures de route à faire pour me rendre à Québec ou 2 heures de route pour me rendre à Ottawa. Tu pars pas de Québec pour te rendre à Ottawa. Je suis pas rendue là, vraiment, mais pas du tout. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Ça fait pas partie de mes différentes options qui sont sur la table, mais pas du tout, du tout, du tout. J'apprécie M. Charest. Mais moi, je sais que M. Charest, lorsqu'il a décidé que le Conseil des ministres serait paritaire. Quand on a travaillé pour que les conseils d'administration des sociétés d'État soient composés à 50% de membres féminins, quand on a travaillé si fort pour avoir plus que 50% de femmes qui ont réussi à accéder à la fonction des juges, ben je me dis, oui, lui, il a vraiment fait avancer la cause des femmes et il croit aux femmes. Vous savez, Yasmine, moi, là, j'ai toujours pensé là que les femmes vont être capables d'avancer parce qu'il y a des hommes qui vont se battre pour elles et avec elles à leur côté. Et M. Charest fait partie de ce type d'homme-là. Les propos de Pierre Poilievre sont inquiétants. C'est du Trumpisme quand je regarde ce qui se passe aux États-Unis, quand je regarde qu'on pourrait remettre en cause le droit à l'avortement des femmes et que si je pense que mes petits-enfants pourraient avoir moins de droits que moi j'en ai eu. Honnêtement, je pense que M. Charest, il est au bon endroit. Puis moi, j'ai appuyé l'homme politique qui, d'après moi, pourrait faire le meilleur chef.
Madame Thériault,
et le premier ministre.
Le oui. 4 octobre prochain, pour conclure, quels sont vos plans lorsque vous ne serez plus officiellement députée d'Anjou Louis Riel? Qu'est-ce que vous allez faire?
Ben, je vous dirais pour commencer, on va passer la balle là, à la prochaine députée parce que j'espère bien que ce sera une femme dans mon comté. Il y a un transfert de dossier, un transfert de bureau pour vraiment pouvoir dire ben, on tourne la page. Puis après ça, là, un long et bon repos bien mérité parce qu'effectivement, c'est sûr que pour se rendre là, il y a encore des activités à faire dans mon comté. J'en ai cette semaine, j'en aurai la semaine prochaine, je vais en avoir tout au mois de septembre aussi. Donc, c'est sûr que la première chose, c'est on se repose, on va fermer la piscine, on va enlever les plantes du jardin. Là, on va regarder, bon, cet hiver, est-ce que le soleil et la chaleur du sud martyriront? fort probablement également.
Ben, Madame Thériault, on vous souhaite une bonne vie d'après politique et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Ça m'a fait plaisir, Yasmine.
Vous écoutez Yasmine Abdel-Fadel.
Cube Radio. Cube Radio.
Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant? On peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin.
Valérie Plante a profité de sa sortie en point de presse hier pour parler, revenir sur ces trois meurtres qui ont secoué la métropole. Bonjour Félix.
Bonjour.
Alors, la mairesse qui dit que c'est un événement isolé.
Ouais, elle se veut rassurante, affirme que c'est un événement isolé. Si tu veux, on pourrait peut-être décortiquer un peu le discours de Valérie Plante hier pour voir où ça a accroché, parce que lorsqu'elle a formulé ses propos en faisant le lien avec ces meurtres en série commis la semaine dernière à Montréal et Laval par Abdullah Shaikh, ben ça a choqué beaucoup de gens, en particulier les policiers. Le président de la Fraternité des policiers et policières de Montréal, Yves Francoeur, qui tout de suite là a réagi, plaçant Valérie Plante, encore une fois, selon mes collègues de TVA là, qui ont couvert l'événement, en porte-à-faux. Ils ont pas tort d'ailleurs avec la police de Montréal. Assez particulier de voir que Valérie Plante déclare ceci à côté de l'ancien chef de police de Montréal, Martin Prudhomme, qui lui embrasse un peu cette version des faits, comme quoi c'est un événement bon isolé, même s'il l'a pas dit. Je veux dire, quand on est à côté, c'est pas qu'on cautionne nécessairement le discours, mais bon, il a parlé des services en psychiatrie, en santé mentale, qui ne doit pas juste que, dont la gestion ne doit pas être que l'affaire des policiers. Bon, bien sûr, il a tout à fait raison, mais c'était un point de presse un peu surprenant dans le contexte, parce que ce que Valérie Plante a oublié, ou la maladresse, si l'on veut, parce que si on regarde le discours complètement le décortiquant, bon, elle a parlé d'événements isolés pour la série de trois meurtres, sauf que elle s'est quand même posé des questions très importantes sur la façon d'approcher les problèmes de santé mentale, sur l'impuissance de la ville dans la gestion de ces problèmes-là quand ils arrivent dans ces rues avec la désinstitutionnalisation d'il y a 30 ans, puis l'accès aux armes maintenant. Je pense qu'il n'y avait pas que du mauvais dans ce discours-là, surtout qu'elle entend essayer de faire, et ça j'espère qu'elle réussira, parce que c'est jamais le sujet plus tu sais mieux que moi, très populaire en campagne électorale, que la question des violences par arme à feu, parce que elle admet qu'elle va en faire son principal cheval de bataille pendant la prochaine campagne électorale provinciale. Quand la ville fera sa liste d'épiceries, il y aura l'argent pour combattre le phénomène de recrudescence des armes à feu. Je dois dire qu'elle en a même pas fait son principal cheval de bataille propre campagne électorale en novembre dernier, alors que le problème était pire, était aussi pas fait. Il existait, il était déjà extrêmement grave, il y avait des meurtres gratuits. Ça, pendant que Valérie Plante était en campagne électorale, ça se passait là.
Mais Denis Coderre, on avait fait son cheval de bataille, Denis Coderre, qui était son principal adversaire.
Exactement, et elle ne l'a pas fait, donc là, elle veut ramener ça maintenant dans la campagne électorale provinciale. Je suis pas le plus fin des analystes politiques, mais je trouve que dans ça, il y a une espèce de non-sens de juridiction. Là. C'est-à-dire que, tu sais, t'as beau t'immiscer dans la campagne provinciale avec des demandes sur la sécurité publique à Montréal, franchement, quand c'est même pas toi qui mène ce combat-là, je trouve ça particulier, bien qu'elle ait raison sous plusieurs aspects. Mais là où la déclaration, elle est un peu malhabile, c'est que elle n'est pas sans savoir, à côté de Martin Prudhomme, que le problème des armes à feu, c'est le problème de l'accessibilité, puis le problème qu'on a eu avec les trois meurtres en série d'Abdullah Shaikh, s'est produit parce qu'Abdullah Shaikh a réussi à avoir accès à des armes. Et ça, c'est le vrai problème. Alors, oui, que Abdullah Shaikh a des problèmes de santé mentale, est déjanté complètement, je ne sais pas, il est en croix, en proie à quelle psychose ou quoi que ce soit. On sait qu'il avait des graves problèmes de schizophrénie pour lesquels il refusait souvent des traitements. Qu'Abdullah Shaikh, dans ce moment précis de sa vie, l'ait perdu complètement, ait assassiné au hasard 3 personnes, oui, c'est un événement isolé. Elle a raison. Mais qu'Abdullah Shaikh ait accès à des armes, ça, c'est pas un événement isolé.
Ben non.
Parce que si, comme on le prétend et on le pense, Shaikh a réussi à se confectionner une arme, entre autres, en commandant des pièces par Internet, qui lui était sûrement livrée à sa porte, ben ça, c'est un problème récurrent, fréquent. On le voit dans les perquisitions policières,
etc. C'est un fléau.
Et là, c'est un fléau. Donc, tu vois, c'est comme une... Je te dirais que c'est une demi-déclaration controversée. Alors, voilà pour mon petit 2 cents, comme ils disent en anglais là-dessus.
En fait, moi, ce qui m'inquiète, c'est le fait de savoir qu'il a pu monter une arme à feu tout seul chez lui en commandant des pièces un peu partout sur Internet et que ça puisse donner des idées à d'autres. Ça m'inquiète beaucoup comme information qui circule. Je le partage avec toi, Félix.
Moi, je l'ai vu de mes yeux vus, Yasmine. Ça, je suis allé chez un gars qui s'est... Puis tu le verras peut-être à GIA cette année-là. On est allé chez un gars qui s'est commandé toutes les pièces pour se fabriquer un AR-15 et il a réussi à s'en fabriquer un. Puis il a tiré avec devant nous. Ça fonctionne malheureusement très bien.
Ça m'a donné la chair de poule. Vraiment, ça fait peur. Revenons à Simon McInnes. Ça fait peur, mais disons que moins que le AR-15.
un peu, oui.
De Simon McInnes qui nous ment, qui fait des cacheteries, qui ment à la population.
C'est un flagrant délit de mensonge. Ouais. Ouais, Annabelle Blais, aujourd'hui, je t'en parle brièvement pour souligner son travail. Donc, McInnes a caché au ministère de l'Environnement des informations sur ses émissions de poussière collante à l'été 2020. En fait, ce qui est intéressant, c'est que faut regarder la chronologie de tout ça. En juin puis en juillet 2020, il y a les premiers épisodes là de ciment. On appelle ça des épisodes de poussière de ciment. Donc, à Port-Daniel, Gascon, ça émane dans l'air. Puis là, l'entreprise affirme au ministère qu'il n'y a pas d'émanations qui sont sorties du site. Mais au même moment, ils faisaient nettoyer en douce les voitures puis les maisons qui avaient sur lesquelles il y avait de la poussière. Et puis ça s'est poursuivi comme un peu à l'insu du gouvernement pendant 2 mois. Et là, en 2020, Annabelle au journal a commencé à poser des questions. Et là, on a continué, demande d'accès à l'information, etc., en collaboration avec des organismes aussi qui s'occupent de l'affaire. Et là, finalement, on réalise qu'il y en avait des poussières, qu'on s'est fait mentir.
Puis ils le savaient, puis ils ont menti, puis ils sont pas gênés là-dessus.
Voilà.
Félix Séguin, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve demain.
Plaisir, à demain. Bye-bye.
Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Félix Séguin est maintenant disponible en balado sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série balado Narcos PQ, qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants. Cube Radio.
C'est donc tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain 7h le matin et je vous laisse entre les mains de mon collègue Alexandre Morin-Ville-Ouellette pour un show très enlevant. Merci beaucoup.
Cube Radio.